Bon, eh bien, bon, merci à ceux qui ont pu s'arracher à ce délicieux repas et aux délicieuses aussi conversations qui l'accompagnaient. C'est toujours difficile, mais vous êtes dans un lieu inspirant, donc c'est tout à fait normal que on se promène sur les chemins de la connaissance et de la connaissance de soi et des autres aussi. Je vais donc passer la parole, sans plus attendre, au professeur, je ne sais pas si on dit le professeur, mais en tout cas, monsieur le directeur scientifique, monsieur Trouvé, qui va nous parler donc des entrepreneurs d'utopie entre traditionnel, ou tradition, pardon, et renouveau. Donc, je vous laisse la parole. Et vous utilisez ou pas le PowerPoint, c'est vous qui en décidez.
Bien, effectivement, je vais peut-être l'utiliser au tout début, et puis ensuite je m'en détacherai pour me libérer complètement, puisque c'est un peu le but du jeu de mon intervention. Je ne sais pas si c'est branché.
Si, c'est bon.
C'est branché?
Oui, vous parlez prêt.
Bien. Ben, merci de votre accueil. En venant ici, je n'avais pas du tout conscience d'arriver dans un lieu d'utopie, finalement. Et je crois que cela va faciliter les choses et probablement mon travail d'exposé aujourd'hui. Ce qui m'a été demandé, c'est de vous parler de travaux que j'ai réalisés par le passé et que je continue de poursuivre aujourd'hui. Sur les entreprises utopiques, à la fois du point de vue historique et du point de vue actuel. J'essaierai de le faire à partir de quelques points que je signale ici pour que vous ayez à peu près quelques repères. Je commencerai par faire quelques ouvertures, en fait, un peu définitionnelles, en fait, sur cette notion un peu chargée, hein, très connotée d'utopie. Et j'essaierai de vous montrer que ce qui m'a intéressé surtout, moi, dans mon parcours intellectuel, personnel, ce sont surtout les utopies d'entreprise. Du fait de ma double appartenance disciplinaire, je suis philosophe au départ, ensuite sociologue de l'entreprise, et puis j'ai terminé par une discipline par laquelle on commence habituellement, qui sont les sciences de gestion. Donc j'ai essayé de combiner un petit peu ces deux ensembles de savoirs au cours de ma carrière, et c'est ce qui expliquerait en fait que je me sois intéressé plus particulièrement aux utopies d'entreprise, quoi. À partir de quelques travaux que j'ai réalisés, en particulier sur l'histoire des utopies productives, j'essaierai de tirer quelques enseignements. Et très rapidement, j'essaierai de situer un peu quelques mouvements qui sont en train aujourd'hui d'émerger, notamment en France, autour d'innovations que j'appelle moi des innovations post-managériales. Je m'expliquerai sur le sujet et je m'interrogerai avec vous pour savoir si ces innovations managériales en fait appartiennent à la tradition utopique ou bien est-ce qu'on a affaire à une certaine forme de rupture. Et puis enfin, j'essaierai de vous parler d'un programme de recherche que je suis en train de mettre en place avec des collègues dans une institution qui est une école de gestion, mais couplée avec une université. Nous avons créé un laboratoire de recherche commun qui s'appelle le CRCGM à Clermont-Ferrand, où nous travaillons sur ces sujets. Voilà, alors sur les ouvertures, j'ai vu que vous étiez intéressé par faire provision de références, d'auteurs, vous avez besoin un petit peu de quelques repères. Je me tiendrai à deux définitions des utopies que je trouve elles aussi charmantes. Enfin, une d'un philosophe qui s'appelait Raymond Ruyer, qui a écrit dans les années 50 un ouvrage sur l'utopie et les utopies. C'était d'ailleurs pas un pro-utopie, hein, c'était un contre. Mais il a cette définition à un moment donné dans son ouvrage il définit l'utopie comme un jeu sur les possibles latéraux à la réalité. Je crois que c'est une très belle définition. Et puis une deuxième définition que j'ai tirée de l'œuvre de mon maître Henri Desroches, puisque j'ai fait ma thèse de sociologie avec Henri Desroches, qui, je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là, mais ça a été un grand historien des utopies sociales, et historien et sociologue des utopies sociales. Il définit l'utopie comme un projet imaginaire d'une société alternative. Voilà. Premier point que je voudrais souligner, c'est que les utopies, en fait, constituent une constante anthropologique, on peut dire. Et pour alimenter ce point de vue, j'ai extrait de ma documentation quatre points qui me paraissent être illustratifs, en fait, de ce qu'il faut entendre par utopie. Premièrement, c'est ce que Henri Desroches appelle le miracle de la corde. Henri Desroches avait repéré que dans plusieurs zones du monde, il existe des mythes où figure l'exemple d'un maître, n'est-ce pas, qui jette devant ses disciples une corde vers les nuages. Évidemment, la corde retombe régulièrement. Et puis un jour, la corde s'accroche aux nuages. C'est ce que Desroches appelle le miracle de la corde et qu'on trouve très bien décrit dans un ouvrage de Mircea Eliade. L'idée que je voudrais souligner ici, c'est que l'utopie est un pari. Et c'est une espérance, mais alors qu'il existe bien des utopies nostalgiques qui reviennent sur le passé pour le valoriser, parfois pour l'embellir, il y a aussi des espérances qui portent vers le futur. Espérances qui portent vers le futur, qu'avait très bien décrit un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Le principe espérance » et qui dit que les utopies nous portent vers le futur. « Nach vorwärts » en allemand. Deuxième éclairage que je voudrais faire, je le tire de la fameuse thèse d'un philosophe que vous devez tous connaître qui s'appelle Maurice Blondel. Il a été vraiment oublié. Il a écrit sa thèse au début du XXe siècle, n'est-ce pas ? Une thèse qui porte sur l'action. Et dans cette thèse, il cite un vieux psaume, n'est-ce pas ? Où il est dit, alors on va faire des langues ici, « Lucerna pedibus meis verbum tuum ». En gros, ce psaume signifie « tes paroles, au fond, sont une lueur, une lanterne pour éclairer mes pas ». Et Maurice Blondel en profite pour montrer, n'est-ce pas, que, au fond, cette lumière qui éclaire, c'est évidemment celle de la pensée, celle de l'imaginaire. Mais cette pensée, cet imaginaire, il n'a pas beaucoup d'utilité si on n'y joint pas immédiatement une action. Et c'est vrai que Blondel utilise l'image d'un marcheur, n'est-ce pas, avec une lanterne. S'il reste immobile, il va pouvoir éclairer la périphérie de son corps, au fond, mais il ne va jamais éclairer ce qui se passe après le halo de lumière qu'il va créer du fait de son immobilité. Et c'est ce qui me permet de dire que l'utopie, loin de cette traditionnelle critique qu'on lui adresse, qui est d'être plus ou moins rêveuse, de s'en tenir à des écrits, à des fantasmes, etc. L'utopie est une véritable pragmatique. Elle pousse à l'action. Troisième référence que je voudrais donner, elle est tout à fait amusante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un ouvrage de Romain Gary qui s'appelle « Charge d'âme ». C'est un ouvrage absolument remarquable. C'est l'histoire de savants, de scientifiques, n'est-ce pas, qui ont mis au point une technique qui permet de capturer l'énergie de l'âme des défunts. Donc dès que quelqu'un décède, les scientifiques se précipitent vers le défunt, n'est-ce pas, et lui, grâce à l'instrument qu'ils ont mis en place, ils vont lui capturer son âme, etc. Alors, le roman est tout à fait amusant, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui, par exemple, qui vient de perdre son épouse, n'est-ce pas? Et son épouse va se transformer en ampoule d'éclairage, 110 volts. C'est quelqu'un qui découvre que son voisin décédé est devenu un moteur de véhicule, etc., etc. Mais au-delà de ces amusements, il y a aussi toute une discussion, si vous voulez, sur le fait que, en règle générale, lorsque des gens sont capables de capturer l'âme des autres, n'est-ce pas, ils intéressent beaucoup les pouvoirs. Et c'est l'occasion, si vous voulez, d'une réactivation de la guerre froide, puisque des soviétiques veulent mettre la main sur ces savants, en se disant, mais avec ça, on va pouvoir faire n'importe quoi aux gens, et surtout pouvoir fabriquer des piles d'énergie qui seront l'équivalent d'une bombe atomique, quoi. Donc une fois que vous capturez l'âme des gens, vous fabriquez une matière totalement explosive et ça devient un carburant avancé, nous dit Romain Gary. C'est l'idée, à mon avis, ça illustre très, très bien l'idée que l'utopie est une énergétique. Voyez. L'utopie donne du souffle. Et ça peut nous intéresser, nous, dans cette période d'asthénie, de pessimisme ambiant. J'ai ajouté à ces citations une autre, puisque je vous propose de faire des langues au début. Hein, bon, j'ai trouvé cette citation dans le Faust de Goethe, n'est-ce pas ? Den Liebich, der Unmögliches begehrt. J'aime ce qui convoite l'impossible. Et n'oubliez pas qu'un des plus grands utopistes du XIXe siècle, qui s'appelait Charles Fourier, en avait souvent après ce qu'il appelait les impossibilistes, dont nous sommes entourés en permanence, quotidiennement, des gens qui vous disent c'est impossible. Vous en rencontrez ça tous les jours, voyez. Fourier les appelait les impossibilistes. D'ailleurs, il les mettait dans le même sac que ce qu'il appelait les anglomanes. Alors j'ai cru comprendre qu'à l'inverse, ce matin, on disait que la culture anglo-saxonne était propice à la créativité. Mais pour Fourier, c'était propice à l'impossibilisme. Cette dernière citation me paraît insister sur le fait qu'il n'y a pas d'utopie qui ne soit pas d'une certaine façon transgressive. Voilà quelques éclairages initiaux. Je vais couper maintenant la machine, je vais me désolidariser, puis je vais me libérer comme ça. Et donc je serai probablement plus proche des contraintes de temps que vous m'avez fixées. Alors, le phénomène utopique est largement inexploré. Hein, probablement qu'il mériterait des musées des projets utopiques où on stockerait des idées qui ont été conçues à certains moments et qui n'ont pas été réalisées. On pourrait imaginer également des conservatoires, des sociétés alternatives. tous ces rêves qui ont été fabriqués par les hommes en même temps qu'ils fabriquaient des produits, des services, qu'ils avaient des relations économiques, les hommes ont toujours imaginé des sociétés alternatives. Pas uniquement des sociétés de rechange, d'ailleurs, mais des sociétés qui pourraient être autres. Et ce phénomène-là est très peu étudié. La seule référence que j'ai trouvée dans ce domaine-là, de quelqu'un qui avait imaginé de faire une encyclopédie autour des utopies, c'est l'encyclopédie de Pierre Versin, qui a été publiée au début des années 70 et qui comportait pas moins de 1000 pages, quoi, où il avait stocké un petit peu toutes les idées qui avaient été comme ça développées et qui n'avaient pas été forcément concrétisées. Dernière ouverture que je voudrais faire, comme ça, mais je jette ça un petit peu au hasard, comme ça, hein, dans une espèce de fouillis ou d'agitation que réclame d'ailleurs l'esprit d'utopie. Hein. Les utopies, si vous voulez, quand on les regarde d'un point de vue historique, elles fonctionnent un peu comme ce que Marx appelait la vieille utopie. Elles se cachent, elles se dissimulent pendant des décennies, et puis elles réapparaissent régulièrement. Et quand on regarde historiquement, ben l'esprit d'utopie, effectivement, ressurgit assez périodiquement dans l'histoire. Et notamment, nous devrons nous en souvenir, à des moments clés de fortes transformations sociales, dans des périodes pré- ou post-révolutionnaires, souvent dans des retombées comme ça, les grandes utopies sont issues de ces périodes vécu par certaines de nos sociétés, notamment la société occidentale, des périodes que Durkheim appelait des périodes d'anomie, vous savez, des périodes de perte de repères et de valeurs. Les utopies ressurgissent, telle la vieille utopie. Premier tableau que je voudrais donc explorer avec vous, c'est de quelles utopies je m'intéresse, je voudrais vous indiquer cela, puis surtout voir comment on passe des utopies sociales, notamment telles qu'elles ont été développées au XIXe siècle, à des utopies d'entreprise, en quelque sorte. Alors, je vous le dis tout de suite, pour couper court à des discussions interminables qu'on pourrait avoir sur le caractère rêveur, verbeux, des utopies, et notamment des utopies écrites, moi je ne m'intéresse qu'aux utopies qui sont expérimentées, qui sont pratiquées, qui sont praticables, qui sont même pratiquantes, et donc des utopies qui ont été réalisées, qui ont été concrétisées. Je m'intéresse aussi aux utopies qui sont durables, soutenable, dirait-on aujourd'hui. Et pas forcément des utopies, d'ailleurs, qui se sont proposées comme des renversements de la société, qui ne se sont pas proposées comme des sociétés à l'envers, mais des utopies qui se sont créées comme des émergences possibles du réel que nous subissons parfois à notre corps défendant. Donc, en gros, je me suis intéressé à la valeur pratique des utopies d'entreprise qui sont parvenues donc dans l'histoire à des réalisations soutenables. Il m'a été demandé, mais je m'en suis aperçu malheureusement a posteriori, de faire état de quelques travaux que j'avais réalisés sur le sujet. Je n'ai pas proposé d'ouvrage parce que la plupart de mes publications sont sous forme d'articles, de chapitres, d'ouvrages collectifs et parfois ce sont des ouvrages un peu abscons, un peu universitaires, académiques, et je ne pensais pas que ça pouvait être intéressant. En gros, au cours de ces dernières années, moi je me suis intéressé aux utopies d'un point de vue historique. Et j'ai essayé d'explorer en particulier, je vais vous le décrire dans un instant, des utopies d'entreprise. Je me suis servi parfois de ces travaux pour interroger le management moderne, le management contemporain. Et en particulier, ce qui m'est apparu très souvent, c'est que l'un des défauts majeurs du management contemporain, c'est qu'il manque de souffle. Là où les utopies d'entreprise sont au contraire très pourvues de capacité à donner du souffle, le management contemporain, pris dans des amas d'outillages, d'instrumentation gestionnaire, ne donne pas de souffle. Il faudrait imaginer peut-être une nouvelle discipline qu'on pourrait appeler une pneumatologie managériale. Comment le pneuma, n'est-ce pas, en grec, c'est donner du souffle. Ce matin, vous avez parlé abondamment non seulement des traces, mais également élever l'âme, n'est-ce pas ? Eh bien, on est en plein dans le sujet. Et puis, troisième temps, je me suis intéressé aussi, alors c'est dans les derniers mois, en quelque sorte, à la façon dont on pourrait aujourd'hui essayer d'étudier, grâce à peut-être des méthodologies un peu renouvelées et à des cadres théoriques un peu renouvelés, l'émergence de nouvelles méthodes de management qu'on pourrait appeler des méthodes de management post-managérial. Alors, sur la partie historique, je ne vais pas trop insister, mais j'ai en particulier porté mon regard sur des expériences qui se sont déroulées dans des pays différents et qui se sont déroulées à des périodes historiques différentes. Et mon cheminement a commencé en particulier avec Robert Owen, qui était un entrepreneur de la fin du XVIIIe siècle et qui a créé une entreprise utopique qu'il a voulu ensuite essayer de transférer ou de diffuser ou de disséminer aux États-Unis. Alors, très curieusement, contrairement à ce qui se passe pour la musique, ce qui nous était dit ce matin, toute l'innovation vient des États-Unis et de l'Angleterre. Avec les utopies, c'est un petit peu différent. Elles naissent en France, mais elles tentent de s'appliquer aux États-Unis. Les réalisateurs ont presque tous fait la traversée de l'Atlantique pour aller s'installer dans des nouvelles colonies, dans un espace qui était effectivement un espace complètement sauvage et qui permettait une rénovation complète du tissu social. Je me suis également intéressé à Jean-Baptiste Gaudin, qui est le fondateur, vous savez, de cette entreprise qui a duré plus d'un siècle. Je m'intéresse aux utopies durables, hein. Donc fabrication de chaudières, etc., d'appareils de chauffage. Adriano Olivetti aussi, donc là c'est un Italien, fondateur de cette entreprise qui a employé jusqu'à 80 000 salariés dans les années 60 et qui a été le grand concurrent d'IBM pendant un temps. Et il faut savoir que c'est Olivetti qui a inventé l'ordinateur personnel, quoi. Enfin, Olivetti était un grand utopiste. Et je me suis intéressé également à une utopie contemporaine qui s'est développée depuis les années 60 au Brésil, sous la houlette d'un grand dirigeant qui s'appelle Ricardo Zemler. C'est la Zemco, une entreprise qui s'appelle Zemco, et qui est une entreprise tout à fait originale, qui est gérée suivant des principes qu'on pourrait appeler des principes de capitalisme autogestionnaire ou de démocratie entrepreneuriale. Quels sont les enseignements qu'on peut retirer, en quelque sorte, de ce parcours historique que je n'ai fait ici, que, évidemment, résumé, je ne suis pas rentré dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout cela ? Premier point, je crois que la première chose qu'il faut retirer, c'est que les utopies, et notamment les utopies qui se sont développées à l'intérieur du monde des entreprises, à l'intérieur du monde productif, ne se sont pas contentées de rester dans le domaine de l'imaginaire elles sont passées à l'acte et elles ont donné lieu à de multiples réalisations, de formes alternatives d'entreprise, pouvant nous fournir des leçons pour l'avenir. Ça, c'est un premier constat. Le caractère anticipateur de ces expériences. Deuxième point, ce sont la plupart du temps des entreprises qui ont essayé de combiner, parfois de façon heureuse, mais aussi avec des déconvenues, il ne faut pas les cacher, de combiner la performance économique et le projet de transformation sociale. C'est dans le foyer de ces entreprises-là qu'on trouve cette réflexion que l'on appellerait aujourd'hui une réflexion sociétale sur le rôle de l'entreprise dans son environnement. Ce sont la plupart du temps des entreprises qui mettent l'accent sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur la formation sous toutes ses formes, et notamment des formations culturelles, comme chez Olivetti, par exemple, hein, qui ouvrait ses portes à des artistes, à des peintres, à des musiciens, à des philosophes. Il faisait venir les grands philosophes français des années 60. Sartre, Georges Friedman, etc., sont allés rencontrer les ouvriers de la Olivetti. L'idée aussi, et c'est là peut-être qu'on rejoint un peu les préoccupations territoriales que malheureusement je n'ai pas pu ici mettre en évidence parce que c'est pas, il aurait fallu que je fasse un travail nouveau sur cette question-là, mais la plupart quand même militent pour une continuité entre le périmètre de l'entreprise et son environnement social. Et souvent, ça se traduit, ça s'illustre par des architectures qui sont extrêmement recherchées et qui sont au fond des incarnations de la doctrine sociale que l'on soutient. Alors, évidemment, avec le familistère de Guise, disent-ils, hein, de Godin, on a une illustration immédiate, mais chez Olivetti aussi, puisque Olivetti a pratiquement écrit plus d'ouvrages d'urbanisme et d'esthétique que des ouvrages de management. Et pour Olivetti, je dirais que pouvait participer en fait à l'élévation de l'ouvrier le fait qu'il vive dans un environnement esthétique, ce qu'il appelait la belleza, d'où une préoccupation très forte de l'esthétisme des produits qu'on fabrique, mais également des lieux dans lesquels on fabrique. Il y a des discours là tout à fait remarquables de Olivetti, notamment un discours qu'il prononce lors de la création d'une nouvelle usine à Pozzuoli, au sud de Naples, n'est-ce pas, où il a implanté les ateliers sur une plage absolument remarquable, et la frontière entre l'atelier et la plage était complètement disparaissée grâce à la virtuosité des architectes qui avaient pensé des cloisons en verre, etc., etc. Voilà, la plupart du temps également, notamment dans le socle historique des utopies d'entreprise, qui est constitué en particulier par les entreprises du 19e siècle jusqu'à Olivetti 1960, puisque Olivetti disparaît en 1960, l'utopie est également assortie d'un projet politique. C'est extrêmement intéressant de voir que les dirigeants utopistes ont toujours été des gens qui étaient engagés politiquement. Voilà. Je retire également parmi les leçons de l'histoire le fait que les entrepreneurs d'utopie n'ont jamais imposé leurs idées avec facilité. Ils ont toujours enduré la méfiance et l'hostilité des travailleurs lors de l'introduction des changements. Lorsque Olivetti revient de Suisse, où il est resté quelques années en exil, chassé par les fascistes italiens, il décide d'abandonner tout le capital de l'entreprise aux ouvriers. Il en parle aux syndicats, et les syndicats disent « mais il est en train de nous manipuler, on refuse ». Vous voyez, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Et la plupart du temps, ce que j'ai repéré dans les histoires des entreprises utopiques, c'est que le soupçon de manipulation saute souvent à l'occasion de crises qui sont dépassées grâce au fait que le dirigeant applique sa doctrine, il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il a imaginé, et il montre là l'exemple, il dit... Alors, on a des exemples fabuleux. Robert Owen, par exemple, qui va rester pendant 6 mois sans production dans son usine et qui dit, on va en profiter pour former les hommes. Alors là, les gens, et on va leur verser le salaire. Vous voyez, les gens commencent à y croire lorsque, effectivement, l'entreprise se caractérise par le fait qu'elle va pouvoir dépasser une crise. C'est en surmontant les crises que s'établit la confiance. Je me suis beaucoup intéressé à l'embryologie, à la physiologie, à la naissance, à la mort des utopies d'entreprise. Je n'ai rien trouvé de particulier. Les entreprises utopiques périssent comme les autres, mais non pas à cause de leur excès d'ambition, comme voudraient le faire penser certains, mais tout simplement parce qu'elles ont un caractère vivant et que très souvent... les entreprises n'ont pas vocation, je dirais, à perdurer indéfiniment, pourvu qu'elles puissent se renouveler. Voilà, donc, de l'histoire aussi, ce qu'il faudrait retenir, et je crois que c'est un peu le mouvement, le balancement d'ensemble, c'est que du 19e siècle à aujourd'hui, au fond, on passe de gigantesques utopies dont la scène... Et le monde entier, n'est-ce pas, ce que Marx et Engels appelaient les socialistes utopiques, c'était des gens qui voulaient changer le monde. Et les entrepreneurs qui se sont situés dans la foulée des grands penseurs de l'utopie sociale du 19e siècle sont des entrepreneurs qui ont toujours pensé que le modèle qu'ils étaient en train d'expérimenter au plan local allait se diffuser au plan mondial. Ça a été leur grand fantasme, et parfois, ça a donné lieu à de grandes déconvenues. Hein, quand on cite les grands utopistes, socialistes utopiques du 19e siècle, Owen, Fourier, Cabet et Saint-Simon, ont donné lieu à des traditions de dissémination et de diffusion. Ce sont des gens qui veulent changer le monde et qui veulent vivre une sorte de monde qui devient un paradis. Quoi. Even on earth, dit Owen. Il faut vivre le paradis sur terre. Quoi. Et l'entreprise est faite pour ça, pour eux. Donc, ce sont les grandes utopies. Ça. Il y a des utopies qui commencent à... je dirais, devenir un petit peu plus raisonnable lorsqu'on aborde le XXe siècle. Olivetti, c'est, à mon avis, c'est vraiment le prototype de l'utopie moderne qui intègre à la fois, je dirais, un très grand réalisme, mais avec un ancrage territorial, une préoccupation territoriale prioritaire, puisque pour lui... Le pivot de son esprit entrepreneurial, c'est la communauté. Et la communauté, pour lui, c'est l'entreprise et puis c'est 50, 60 000 personnes autour de l'entreprise. C'est pour cela qu'il s'établit d'ailleurs à Ivrea, dans une région improbable, n'est-ce pas, là où la Fiat était bien chaudement et bourgeoisement installée à Turin. Donc vous voyez, ça, ce sont des utopies transitoires, des entropies modernes. Puis aujourd'hui, nous avons affaire, nous pourrions avoir affaire, et c'est ce sur quoi il faut s'interroger, à ce qu'on pourrait appeler des utopies post-managériales ou post-modernes. Et ces utopies, elles ont une caractéristique singulière, enfin à mon avis, hein, c'est qu'elles sont... Ce sont des utopies moléculaires. On pourrait appeler ça des utopies moléculaires. D'une certaine façon, quand on regarde les choses de l'histoire, si vous voulez, on pourrait avoir l'impression d'un affaiblissement, d'une espèce de transformation négative des orientations originaires. Il ne faut peut-être pas s'abandonner à ces impressions initiales et essayer d'aller voir de plus près ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Alors, ce qui se passe sous nos yeux, ben, vous le savez, vous en avez probablement entendu parler, c'est l'émergence de ce que j'appelle, moi, des utopies moléculaires et que l'on pourrait appeler aussi des utopies post-managériales. Alors, pourquoi j'utilise le terme de post-managérial ? Ben, tout simplement parce que ce sont des utopies qui sont très concentrées sur les formes de gouvernance d'entreprise et qui mettent l'accent sur le fait qu'il faut absolument en finir avec des approches du fonctionnement des entreprises qui sont réduites à des outils, à des instrumentations gestionnaires, des ratios de gestion, des tableaux de bord, des process, etc., etc. Bref, ce que l'on appelle le managérialisme, qui est cette espèce de maladie qui s'est emparée des organisations, pas seulement concurrentielles, mais également des organisations publiques, puisque vous le savez aujourd'hui, ce qu'on appelle le nouveau management public, c'est un management qui a intégré les nouvelles normes, les nouveaux principes d'action du management qu'on trouvait dans les entreprises concurrentielles et qui ont développé l'outillage à la puissance 10, ce qui fait qu'on a paralysé quasiment la plupart des organisations publiques aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pour cela que j'appelle ces tentatives post-managériales, parce qu'elles se proposent, si vous voulez, d'être en rupture par rapport aux principes dominants aujourd'hui. Le management, notamment dans la figure centrale du capitalisme financiarisé, c'est-à-dire les grandes entreprises. Alors, pour parler de ces mouvements-là, je crois qu'il faudrait y passer des heures et des heures. Il y a divers courants. Vous avez probablement entendu parler du mouvement de l'entreprise libérée. Entreprise humaniste, disent certains, entreprise responsabilisante, comme dit Michelin, entreprise capacitante, comme disent certains de mes collègues du CEREC. Ces entreprises-là ont été observées, du moins un peu systématiquement, par un auteur que vous devez connaître, qui s'appelle Isaac Getz, qui, avec un auteur américain qui s'appelle Carney, il ne faut pas l'oublier, dans la distribution, hein, a écrit un ouvrage qui s'appelle Liberté et compagnie, et vous aurez peut-être là ici une première description de ces courants de pensée. Il existe bien d'autres références, mais je vous en fais grâce. Voilà. Alors, ce qui me paraît être marquant dans ces nouvelles initiatives, c'est que, encore une fois, elle se déroule à des échelles extrêmement localisées. La plupart des dirigeants n'ont absolument pas les visées des utopistes du 19e siècle. Ils ne veulent pas changer le monde. Ils veulent simplement transformer les rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Rapports sociaux qui doivent aujourd'hui être fondés davantage sur l'autonomie, la responsabilité des travailleurs et des employés. Voilà. Dernier point pour qu'on puisse laisser place peut-être à un débat qui, j'espère, pourra naître après mon intervention. Il me semble, si vous voulez, qu'il y a quatre grands traits qui caractérisent ces mouvements émergents. D'une part, ce sont des entreprises qui mettent au centre de leurs préoccupations une nouvelle conception du travail, de son organisation, du temps de travail, etc., etc. Également, deuxième point, c'est la question de la démocratisation des rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise qui est soulevée. Et on ne peut pas ne pas faire référence ici à la crise de la démocratie représentative au plan macro-politique, n'est-ce pas ? Troisième point, c'est une très forte concentration sur les modes d'organisation et surtout sur la réappropriation par les salariés de leur propre travail, c'est-à-dire dégager des zones d'autonomie et de responsabilité. Et puis peut-être aussi, bien que ce soit plus ambivalent, l'insistance sur la place des leaders à l'intérieur de ces entreprises-là. Un débat s'étant ouvert autour des travaux dernièrement de Mintzberg sur l'idée qu'à force de parler de leaders, est-ce qu'on ne met pas à nouveau l'accent sur des personnages hyper flamboyants, là où on devrait plutôt mettre l'insistance sur le pouvoir distribué, et il appelle ça, lui, le community ship. Remplacer le leadership par le community ship. Voilà. Alors, deux, trois petites considérations pour terminer. Hein, je ne veux pas trop vous ennuyer. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un programme de recherche pour mettre à l'épreuve scientifique ces expérimentations, ces émergences. Non pour les dénoncer, évidemment, mais pour mieux les comprendre. Et en essayant un peu de repenser les cadres théoriques, parce que le grand malheur, on a eu d'ailleurs un débat, enfin une controverse avec Isaac Gates là-dessus, qui se considère comme le propriétaire de la marque déposée entreprise libérée, quoi. Quand on sait que ce concept-là a été utilisé dans les années 80 par un spécialiste du management américain qui s'appelle Tom Peters, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les entreprises libérées ». Gates dit qu'il a inventé le concept et il se méfie beaucoup des chercheurs qui veulent essayer d'aller y voir un petit peu de plus près. Alors, on a mis en place donc un programme de recherche qui s'appelle People, hein, programme d'études sur les organisations post-managériales et la libération des entreprises, avec un axe historique en particulier, où on va essayer de montrer que les entreprises libérées ont un gros déficit par rapport aux utopies d'entreprises précédentes, c'est qu'elles sont chez elles dans le régime néolibéral de la gouvernementalité. Hein, puisque vous le savez, la nouvelle gouvernementalité telle qu'elle a été décrite par Michel Foucault suppose des individus qui sont parfaitement autonomes et qui sont capables d'être soucieux d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Et bien, on a une traduction magnifique dans les entreprises libérées. Il faut aussi injecter beaucoup plus de sociologie que ne le fait Gates. Il interroge des dirigeants d'entreprise sans se préoccuper de savoir ce qu'en pensent les salariés. C'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est un petit peu comme si vous alliez interviewer des électeurs, n'est-ce pas, en leur disant ce qu'ils pensent du régime démocratique, voilà, donc sans leur demander leur avis. Donc voilà un petit peu. Donc il faut aller à l'intérieur de l'entreprise. Il faut se centrer également sur les processus plus que sur les résultats que l'on décrit souvent de façon apologétique. Et pour décrire les processus, on est obligé de faire des immersions longues dans les entreprises. D'où notre idée qu'on s'appuie sur des structures pédagogiques qui vont nous permettre d'envoyer des étudiants, parce que nous, on se ferait jeter, quoi. Enfin, c'est évident. Voilà. Ne pas oublier également que ces phénomènes-là peuvent générer aussi des résistances. Hein ? Et là, je fais appel à tout un tas de travaux, notamment d'historiens, sur ce que James Scott, n'est-ce pas, appelle les infra-politiques des subordonnés, les formes discrètes de résistance. C'est pour ça qu'il faut s'immerger dans les entreprises. Parce que sinon, on ne voit pas les formes discrètes de résistance. Voilà. Et puis, également, il faudrait interroger d'autres cadres théoriques qui ne sont pas mobilisés aujourd'hui par les gens qui ont quand même, il faut leur reconnaître ce mérite, n'est-ce pas, qui ont fait une première tentative de formalisation de ce mouvement-là, mais visiblement, ils ne disposent pas des outils dont on pourrait disposer en utilisant plus fortement les sciences sociales. Voilà.
Je vous remercie. On sent bien que parlez d'utopie dans le domaine de l'entreprise, donc c'est récurrent évidemment, hein. On a beaucoup parlé du 19e siècle. C'est intéressant effectivement tout ce phénomène un peu médiatique autour de l'entreprise libérée, de Goethe, etc. C'est amusant presque, on pourrait dire, de voir comment quelqu'un comme Goethe, que je ne connais pas, hein, mais s'estime dépositaire de la marque entreprise libérée. J'en parle d'autant plus que personnellement, je possède moi aussi la marque Eco Business Angels, ce qui est bien pratique. Parce que personne ne peut dire qu'il est éco-business angel sans me demander la permission. Évidemment, derrière, il y a, qu'on le veuille ou non, du pouvoir. C'est-à-dire que je garde le pouvoir sur la marque et je m'interroge, je ne dirais pas tous les jours, mais enfin sur le côté utopique, je dirais, de cette démarche. Ceci dit, l'utopie, évidemment, ça fait avancer les esprits. Dans quel sens, ben on verra peut-être tout à l'heure avec d'autres intervenants. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser.
Très, très court aussi, puisqu'il faut enchaîner.
Bonjour, Philippe Varin, donc Piste Créative et Développement. Juste une question. J'étais étonné dans la présentation des utopies, c'est que vous n'ayez pas traité ou éventuellement nommé Henri Desroches, sociologie du développement, qui a travaillé sur tous les ménénarismes en ancien dominicain, tous les ménénarismes donc du lendemain qui chante, hein, depuis le Jésus-Christ, et donc qui a travaillé notamment dans le 19e et 20e siècle sur tous les utopies, notamment fourierisme, qui a donc pu permettre de développer ce qu'on connaît maintenant, ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît maintenant, c'est à savoir les coopératives de travail de Boismondeau, qui était le prémisse idéologique et intellectuel des mouvements de l'autogestion de l'IP et donc des travailleurs de Besançon des années 70, qui a donc le prémisse de travail en commun, de mise en commun de la coopérative, du travail, de la lecture. Ils étaient payés en fonction de la lecture qu'ils faisaient, du sport qu'ils faisaient, etc. Donc une utopie totalement extraordinaire et qui a vécu parce que l'entreprise a vécu 30 ans quand même, hein. Donc c'est une coopérative de fabrication de boîtiers de montres à Valence, hein, qui était le prémisse de la, je dirais, du terreau intellectuel de l'IP et de l'autogestion de la CFDT, hein. Donc et qui bien sûr traîne aussi sur d'autres éléments. Alors je raccourcis, voilà. Donc j'étais étonné que ce point soit pas évoqué éventuellement. Et deuxièmement, effectivement, comment après on peut réintégrer cette connaissance, je dirais, ces connaissances historiques sur ce fourriérisme notamment, sur les autres expériences qui peuvent émerger maintenant. Merci.
Merci.
On prend peut-être les questions, puis vous répondez globalement.
Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez dit quelque chose qui m'a particulièrement intéressée. C'est que
pouvez-vous vous présenter ?
Oui, je suis là. Donc, je suis Eve Berger. Je suis intervenante demain matin dans la table ronde de chercheurs. Donc, je suis moi-même chercheur. Enfin, voilà, j'expliquerai demain. Sur la question du corps. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est quand vous disiez que les entreprises d'utopie meurent comme les autres, non pas par excès d'ambition ou de rêve, mais dans ce que j'ai compris, parce que tout simplement elles sont vivantes et que la mort fait partie de la vie. En fait, je me demandais si malgré tout vous aviez repéré dans les entreprises d'utopie des raisons, des causes, des déclencheurs de la mort de l'entreprise spécifique ou pas du tout, sont les mêmes que dans n'importe quelle autre entreprise. Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question qu'on ramasse et ensuite on passe à l'intervenant suivant ? Non ? Si, Yvette ?
Bonjour, Yvette Lazer, Université d'Aix-Marseille. Question très rapide, quelle différence entre entreprise utopiste et entreprise créative ?
Merci Yvette. Nous vous écoutons.
Oui, je vais essayer d'être rapide. Sur l'absence de référence à Henri Desroches, alors d'abord, je vous remercie de m'avoir posé la question. J'ai cité Henri Desroches au début de mon exposé, mais comme j'étais son disciple, et sont des disciples très proches, puisque je l'ai suivi jusqu'à sa disparition, et qu'une partie d'ailleurs des textes que j'ai écrits sur les utopies sont des textes qui sont parus dans des ouvrages d'hommage à Henri Desroches. Si vous voulez, c'est un peu par timidité que je n'ai pas cité Henri Desroches, parce que, alors, c'est pas par absence de reconnaissance à son égard, mais surtout, je ne voulais pas, si vous voulez, transformer cet exposé en exposé sur Henri Desroches, même si ça m'aurait fait énormément plaisir. D'ailleurs, à l'intérieur du colloque que nous avons organisé en juillet, nous avons fait un symposium Henri Desroches, Adriano Olivetti, d'un côté un grand intellectuel, de l'autre côté un grand industriel, qui se sont rencontrés. Et donc j'ai fait venir des spécialistes italiens, français, etc. Et on a croisé les deux démarches. Donc Henri Desroches, oui. Les communautés de travail, Bois-Mondeau, effectivement. Parce que, alors ça c'est une tradition très intéressante aussi, parce que parmi les découpages que j'aurais pu effectuer, là j'ai taillé à la serpe les grandes, les moyennes, les postes managériales, etc. On peut faire aussi des distinguos entre des utopies, c'est bête de dire ça, mais un petit peu pour simplifier, qui sont par le bas, qui se construisent par le bas, c'est-à-dire qui sont au départ des initiatives ouvrières, en particulier au XIXe siècle, et qui peuvent se prolonger ensuite dans l'histoire avec le mouvement syndical, etc. Résurgence à la fin, à la libération, n'est-ce pas, avec les communautés de travail. Et en ce moment, je suis en train, si vous voulez, je croise deux réponses, là, pour le prix d'une. Je suis en train de travailler sur les rapports qu'avait rédigé Henri Desroches sur les périodes qu'il a passées comme intellectuel organique à Bois-Mondeau. Il a passé plus d'un an à l'intérieur de la communauté Bois-Mondeau et après dans une communauté de travail en région parisienne. Et je suis en train de travailler sur les rapports qui ont été rédigés avec la méthodologie d'économie et humanisme pour voir si on ne pourrait pas aller chercher des sources d'inspiration pour nos méthodologies d'analyse actuelles. Alors, donc, merci. Pour ce qui concerne la mort, la déliquescence, la décrépitude des utopies d'entreprise, je crois pouvoir vous dire, pour avoir vraiment travaillé sur cette question, que les utopies d'entreprise meurent comme les autres. Comme les autres, et parfois même aussi subitement, même si l'on peut mettre ça parfois sur le compte d'un environnement particulièrement hostile. Quand on se souvient de la fin de l'entreprise Olivetti, cette gigantesque entreprise exemplaire, etc., Adriano Olivetti meurt subitement dans le train entre Turin et Milan en 1960. Et puis à partir de là, on voit une lente emprise du secteur financier sur l'entreprise, qui abandonne complètement la tradition industrielle, créative, innovante de l'entreprise. Là, vous savez que cette entreprise-là a été reprise par un certain Carlo De Benedetti, un personnage à la fois fantasque, paranoïaque, etc. En tout cas, un financier exemplaire qui a découpé l'entreprise en appartements. Voilà, bon. Mais rien de spécial. Rien de spécial. Alors, différence entre utopie créative, dites-vous, enfin entreprise créative et entreprise utopique. Moi, il me semble, si vous voulez, que par définition, toute entreprise, si on accepte bien que l'entreprise est différent du management, on confond souvent, si vous voulez, les pratiques entrepreneuriales et les pratiques managériales. Moi, je distingue bien. Le management, c'est une affaire de gestionnaire, de contrôleur de gestion, etc. Lorsque l'on se concentre plus, je dirais, sur l'entrepreneuriat, on va mettre en évidence évidemment des capacités de création, d'innovation, etc. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que les utopies font peut-être un pas de plus ou un pas de côté, comme vous disiez ce matin, par rapport aux entreprises qui sont simplement créatives. Elles peuvent être d'ailleurs les deux. Hein. C'est que souvent, leur créativité est employée pour, transformer les rapports sociaux, et notamment les rapports de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Ce que ne vous donne pas forcément une entreprise créative, quoi. Simplement créative, quoi. Enfin,
merci
regardez
beaucoup.
Google aujourd'hui, quoi.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, effectivement, ça me permet de parler de Henri de Navacelle, qui va intervenir maintenant, qui est le directeur général de la FORP, sur le thème des apprentis humanistes. Parce que ce qui me frappe, c'est quand même qu'on parle des entrepreneurs et que les utopistes, pour moi, sont à la fois des entrepreneurs et des entre-donneurs, si je peux me permettre ce néologisme, c'est-à-dire des gens de partage, qui ont quand même l'idée de partage, partage de pouvoir, partage financier, etc. Alors que les financiers, d'une manière un petit peu caricaturale, en tout cas ceux qui ont dépecé Olivetti, sont évidemment des gens qui ne pensaient que finance et non pas humanisme. Mais je vois deux gentilles personnes qui se présentent, oui. Oh, mais je vous en prie, au contraire, vous êtes les bienvenus. Je suis président aussi, hein. Ne jamais oublier ça. Voilà, merci. Merci.
Les jurys, les membres du jury. Ouh, on a un petit peu le trac, hein.
Oui, bah oui, parce que c'est qu'on a été convoqués à 3 heures pour venir passer notre CAP d'utopiste.
On est un petit peu.
On avait peur d'être en avance.
Voilà. Hein, alors, bon, ça va être rapide. On a quelques épreuves à passer, comme vous le savez. Alors, on vous demande toute votre intelligence.
Oui, parce qu'eux, ils ont déjà des entreprises utopistes.
C'est des experts.
Oui.
De l'utopie.
Peut-être qu'ils vont nous prendre en stage après.
J'espère.
En apprentissage. Oui. Hein, c'est ça. On aimerait bien trouver un petit terrain.
Voilà.
Bon, alors action, tu l'as dit.
Action. Il faut du passage à l'acte. Hein,
bon, alors, voilà. Bon,
allez. L'épreuve de la corde. On va commencer par celle-là.
Le miracle.
Vas-y, vas-y.
Oui, oui, pour s'en trouver. J'en appelle à...
C'est ça.
Monsieur... Allez, Olivetti.
C'est ça.
Mais nous, la vie nous, à tout ordinum.
Très bien. Alors, c'est parti. Alors, on imagine que là, ce serait des nuages, hein, d'accord. Voilà. Je vais lancer la corde. C'est ça, hein, monsieur le président. L'utopiste ne s'arrête pas là. Hein.
Non, non.
Un échec, deux échecs, trois échecs. Ah, ah, continue d'y croire. Oui, ça se mélange, c'est très gentil, c'est
faut retrouver l'âme des défunts.
Ah oui, c'est vrai. Alors,
qui est-ce qui est mort?
Ah oui, parce qu'il faut des morts. Pour trouver l'énergie, des défunts, des âmes.
Des âmes,
ah oui. Il faut des morts. Ben moi, un rêve que j'aurais, ce serait de pouvoir récupérer l'énergie des âmes des vivants, vous voyez? Ça serait quand même plus opératoire. Parce que s'il faut l'attendre. D'ailleurs, je me demande d'où vient cette lumière-là.
Oh, Olivetti.
Oh, oui.
Oh, oui.
Peut-être, c'est lui.
C'est lui. Mais c'est lui, il s'est réincarné en ampoule. Oh. Oh, il est au-dessus de moi, pile. Pas au-dessus de vous, il est pile au-dessus de moi. Je crois. Hein, je peux récupérer. Tenez un bout. Voilà.
Vas-y. Ça fait de l'effet.
Bah, faut attendre un petit peu. Ah là, tu fais moustique. Ouh là là, c'est qu'il y a du. Ah, il y a du. Il y a de la puissance, hein. C'est.
Retrouver le lien entre les hommes, c'est ce dont va nous parler très probablement monsieur de Novacelle.
Ah bon? D'abord, je voulais remercier monsieur Trouvé. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'aurais beaucoup aimé rebondir sur plein de sujets que vous avez abordés. Et au moins, en synthèse, vous dire que je suis très intéressé de recevoir vos doctorants chez moi pour analyser la PME que je dirige. Qui est une PME de 180 salariés, si ça vous intéresse. Et après les deux clowns, c'est compliqué d'atterrir et d'être peut-être un peu moins drôle. Encore que. encore que. Quand on parle de l'âme, on l'a tous rejoint. Donc la FORP est un centre de formation industrielle et technologique qui œuvre sur la région Île-de-France et qui forme des opérateurs, des techniciens supérieurs pour l'industrie, ou plus exactement pour les métiers industriels. L'intérêt des métiers industriels aujourd'hui, c'est qu'ils se diffusent dans plein de branches professionnelles, et donc c'est vraiment un secteur d'avenir pour les jeunes, et il faudrait que leurs prescripteurs en termes d'orientation puissent leur dire et leur redire. Quand on parle de métiers industriels, on ne parle pas que de l'industrie, on parle beaucoup du bâtiment, de l'hôtellerie, de la restauration, bref, tous les métiers de la maintenance et toute l'électronique, l'électrotechnique et l'informatique sont vraiment au service de tous les secteurs. Donc un secteur très porteur d'avenir. Deuxième spécificité de la FORP, donc, c'est le public que je vous ai dit, que j'appelle pompeusement l'encadrement intermédiaire ou le middle management, qui est pour moi un public en danger en France, qui fait que la France est en train de devenir un pays sous-développé. Quand vous allez dans un pays en voie de développement, vous avez des bac plus 5 pas très professionnels et des gens sans qualification. Et puis au milieu, pas grand-chose. Et la France est en train de devenir cela. C'est-à-dire que vous avez des discours politiques pour les bac plus 5, les chercheurs et tout ça. En gros, 50 000, 80 000 personnes. Vous avez des discours, éventuellement pas beaucoup d'actions, malheureusement, sur les jeunes sans qualification, les fameux 150 000, dont aucun politique ne souhaite qu'on passe à zéro dans les 5 ans. Et donc la honte continue. Et au milieu, personne ne s'intéresse à ce public qui fait tourner les entreprises, qui reste en France, qui fait vivre les régions, qui reprend les entreprises éventuellement, voire qui en crée. Donc voilà, mon public, l'encadrement intermédiaire pour les métiers industriels. Après, quelques constats. Premier constat, le numérique se développe à toute vitesse. Google est là, ses intentions aussi. Il y a certainement une très belle utopie chez Google, mais je ne suis pas sûr qu'elle me fascine. Et on y va tous, tranquillement, les yeux fermés. Et quand ce n'est pas Google, c'est GAFA. Et on est tous très contents. Donc pour moi, plus il y a de numérique, plus il faut de la philo, plus il faut des humanités. Deuxième constat que je fais, les jeunes que je reçois en apprentissage, j'en forme à peu près 1600, plus des demandeurs d'emploi, plus des salariés d'entreprise, mais en gros donc un gros paquet de jeunes de banlieue d'Île-de-France, puisque je suis implanté à Drancy, en plein 9-3, à Issy-les-Moulineaux, à Asnières et à Mantes-la-Ville, tout près des Mureaux, de Mantes-la-Jolie, etc. Le premier constat que je fais, des jeunes que je reçois, soit qui viennent préparer un bac professionnel en sortie de troisième, soit qui viennent après leur bac, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Ils ont été cassés brillamment par le système éducatif, paraît-il. Pendant 15 ans, ils ont lu tous les trimestres des bulletins de notes, comme quoi ils étaient nuls, etc. etc. Et ça finit par payer. Quand ils arrivent chez moi, ils sont capables de rien faire. En tout cas, ils pensent être capables de ne rien faire. Dans la filière professionnelle, troisième constat, c'est la seule filière où vous n'avez pas de cours de philo. En bac pro, il n'y a pas de cours de philo. Sous prétexte que ces jeunes-là sont a priori des manuels, ça veut dire les autres. Hein. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de droit de réfléchir. Honte également, de mon point de vue. J'espère que votre dentiste et votre chirurgien sont des bons manuels. Hein. Mais ça, apparemment, ce n'est pas des manuels. Rostropovitch aussi, c'était un bon manuel. Alors, ça fait trois. Après ces constats, mes paris, c'est le pari pédagogique du tiers domaine. C'est-à-dire, a priori, ce qui ne sert à rien. Et ce qui permet de quitter le face-à-face cher au système classique et a priori conflictuel, le face-à-face, pour être plutôt dans le côte-à-côte. Le deuxième pari, c'est que le savoir-faire est constitutif de l'estime de soi. Donc il faut travailler sur les savoir-faire. Et le troisième pari, probablement le plus dur, parce que pas très courant en France, c'est la confiance dans l'autre. La confiance dans la jeunesse, qu'elle soit de couleur, débridée, googlisé, tout ce qu'on veut, mais faire a priori confiance, à la jeunesse. C'est vrai que c'est à peu près 4000 ans que les vieux trouvent toujours que les jeunes sont catastrophiques. J'ai toujours coutume de citer une phrase de, je ne sais plus, c'est Démosthène ou je ne sais pas qui disait que la fin du monde était proche avec la jeunesse que l'on avait, et c'était il y a 3000 ou 4000 ans. Et ça continue. Donc l'enjeu, c'est de faire sortir les talents, de faire émerger tous les talents, et pas uniquement les talents dits purement manuels. Et puis derrière ça, mon utopie à moi, c'est d'avoir des hommes et des femmes debout. Debout physiquement, et dans la pédagogie, on sera plus debout qu'assis, et debout spirituellement ou humainement, je ne sais pas comment dire ça. Or aujourd'hui, quand on se regarde dans la rue, on est tous penchés sur notre téléphone. Donc on regarde ses pieds. Avant, à Paris, on regardait les crottes de chien. Aujourd'hui, c'est le téléphone. On regarde plus le ciel, on regarde plus les étoiles. Donc vous parliez du souffle, monsieur Trouvé, tout à l'heure. Moi, je parle de l'âme. Anima, animus. Où est-elle? Donc, après, j'ai un certain goût pour les grands écarts. J'aime bien faire à la fois des écarts entre industrie et art. L'industrie normée, l'art, a priori, la créativité à tout craint. L'industrie et la poésie, ou le slam. Des jeunes qu'on appelle des dimas. Vous savez, c'est des gamins de 14-15 ans qui ne sont pas capables de continuer au collège et encore trop jeunes pour rentrer en CFA, et à qui je propose du grec ancien, d'où les apprentis humanistes. Et ça fait 6 ans que ça dure. Et j'ai multiplié par 4 mes effectifs de jeunes apprentis ou pré-apprentis qui font du grec cette année. C'est faire le lien entre la formation professionnelle et la philo, la formation professionnelle et le théâtre. Et enfin, c'est dans la réalité quotidienne, parce que ça, c'est pas une utopie, encore que j'ai aimé que l'utopie était poussée à l'action et donne du souffle, on mène une pédagogie de projet. L'homme ne fonctionne que s'il a un projet. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on n'a plus de projet. Et quand j'ai proposé à mes formateurs, 180 salariés, 120 formateurs, de partir il y a 3 ans sur une logique de projet, première réponse, c'est quoi un projet? Intéressant, en 2014. Pour montrer à quel point on est vraiment à sec. Et donc il faut se bouger, fortement. Ne serait-ce que pour que des jeunes soient debout plutôt qu'assis, à roupiller pendant les cours, qu'ils réalisent des choses, qu'ils soient capables de créer, d'avoir envie de proposer un projet, et que le projet ne vienne pas d'en haut. Je vous rappelle qu'on est en train de passer de l'ère du poisson et de l'homme providentiel à l'ère du Verseau, l'espace plutôt collaboratif. Donc il faut aller là-dedans. Derrière, ça veut dire des formateurs qui soient capables de pratiquer ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit c'est quoi? Alors, c'est un terme un peu spirituel, mais ça veut dire la relecture du trajet. Qui dit projet dit relecture de ce qui s'est passé pendant le trajet du projet. Quelles compétences j'ai acquises, comment je les ai acquises et comment derrière je peux travailler sur mon employabilité. C'est pour ça que nous réfléchissons beaucoup, nous travaillons beaucoup par l'approche, par les compétences. Les compétences, classiquement, on les entend comme purement professionnelles. Pour moi, les compétences sont également humaines, artistiques, sportives, managériales. Et on peut avoir des compétences de cet ordre-là à 16 ans et demi en France. Ça existe, et vous en connaissez certainement, autour de moi. Voilà, j'ai fini. Donc en gros, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est, et notamment poussé par le développement du numérique et du digital, c'est vraiment un très fort investissement sur des ateliers de philo, sur des ateliers d'écriture, sur l'apprentissage de la lecture, sur un peu de grec ancien, sur des expositions d'œuvres d'art, sur pratiquer le théâtre, bref, comment sortir de sa coquille, bref, comment faire anima sana in corpore sano. Merci.
Merci beaucoup.
Je vais terminer quand même pour vous dire une citation, parce que tout bon exposé en France doit proposer une citation. Mais c'est en gros celle qui pilote notre façon de faire à la FORP. Elle est de Goethe. C'est traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Ben, quand vous faites ça avec des gamins, des migrants, j'en ai actuellement 3 de 16 ans, dont un a traversé la Méditerranée, je pense que c'est un beau chantier. Voilà.
Merci, monsieur de Navassel. Donc, qui a des questions? Voilà, au fond.
Oui, bonjour, merci pour cette intervention qui m'a vraiment, vraiment très, très intéressée. Alors, j'avais quelques questions générales à vous poser sur la mise en œuvre concrète de ces ateliers pour savoir quelle était leur périodicité, si c'était uniquement du grec, s'il y avait aussi du latin, et quelle était la participation finalement de ces élèves apprentis, si leur participation reposer sur la base d'une motivation personnelle ou si vous les emmenez tous dans ce projet que je trouve vraiment magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que vous avez développée selon laquelle les compétences, bien sûr, ne sont pas à percevoir comme uniquement professionnelles pour réussir dans la vie, mais qu'il faut effectivement ouvrir le citoyen de demain, quel qu'il soit, quelle que soit sa profession, à des compétences sportives, relationnelles, humaines, artistiques et autres.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, alors Isabelle Jouteur, je travaille à l'Université de Poitiers. J'ai eu donc l'invitation à cette journée par le biais de Marc Millot. Donc je vous remercie de nous avoir informés de cela. Il se trouve que nous réfléchissons à l'université, ici, à la mise en œuvre justement d'une formation dans un an et demi qui associerait les langues anciennes et l'informatique. Voilà.
Oui, puis derrière, vous avez un projet qu'on est en train de... On est vraiment à l'aube du projet, c'est calligraphie arabe et technologie. Et puis on a aussi des créations d'entreprises et des choses comme ça, mais ça je peux rentrer dans le détail de ce que l'on fait. Alors si on parle du grec, mon idée au départ du grec c'était d'abord un vieux rêve un peu personnel, Jacqueline de Romilly, etc. Mais je trouvais que pédagogiquement ça avait du sens de proposer un même obstacle à tout le monde. Quand vous avez 15 gamins, vous en avez toujours un qui en maths sait faire 2 plus 2, bon, et qui en français, bon. En grec, tout le monde est vraiment, ça avait mieux de départ. Le latin, déjà un petit peu moins. Et puis voilà, le grec, il y avait un fantasme familial, personnel de faire ça. Et puis, il se trouve que pendant, après mon arrivée, j'en parle à droite et à gauche. En disant, j'aimerais bien trouver des profs de grec, j'en trouve pas. Un beau jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, j'ai des contacts à l'ENS, à rue d'Ulm, à Normalsup. Il me balance un mail, je ne sais pas comment il a fait, mais j'avais 4 personnes qui voulaient être profs de grec chez moi. Donc depuis 6 ans maintenant, j'ai des étudiants... deuxième, troisième, quatrième année, enfin bon, une à deux par an, cette année deux, volontaires pour être prof chez moi. Et c'est 2 heures de grec ancien par semaine. Et quand une idée, elle est bonne, elle est pour tout. Si vous demandez à des gamins de 15 ans, en dima, est-ce que tu voudrais faire un peu de grec ancien? Déjà que tous mes managers et mes enseignants et mes formateurs m'ont dit, c'est quoi cette idée, les grecs, tous des PD, enfin vous connaissez le truc. Vous imaginez l'accueil, quand je suis arrivé, qu'on m'a dit ça. En gros, on est des mécaniciens, des chaudronniers, des usineurs, des électrotechniciens. Oh, le grec, ça vient faire quoi là-dedans? Après, c'était le projet de Navassel, donc on fait parce que bien obligé. Puis au bout de 2 mois, mais ils sont où là, mais ils sont en grec. Bon, voilà, c'était passé dans les mœurs. Et ça fait 6 ans que ça dure. Alors derrière, on tire des fils. Alors ça dépend du génie des formateurs ou des formatrices, enfin des étudiants de Normalsup, qui quand même... se paye des promos de 14, 15, 16 gamins, pas toujours complètement évident. Mais d'abord, pour eux, c'est une expérience extraordinaire d'être enfin enseignant, enfin, au moins une fois dans leur vie enseignant avec des gens qui ne sont pas là forcément par plaisir et par envie. Mais derrière, on tire des fils assez étonnants. On tire un fil sur la réalisation en chaudronnerie d'une carte en métal soudée et travaillée de la grecque ancienne, de la grecque antique. On tire un film sur, on fait participer des jeunes à un cours de théâtre en fin d'année, à une petite compétition de théâtre. Ils choisissent eux-mêmes parler de la naissance du métal avec le Thanatos ou je ne sais plus qui, ou un autre dieu grec. Ils étaient tous en petite jupette blanche. Ils avaient fabriqué leur casque en chaudronnerie, ils servaient leur bouclier en chaudronnerie et ils faisaient alpha, bêta, gamma, comme ça. Des gamins de 15 ans, si vous voulez, qui sortent de Mantes-la-Jolie. Ça surprend. Enfin, ceux qui connaissent un peu le grec et qui connaissent d'où viennent ces jeunes-là se disent il s'est passé un truc. Voilà, donc il se passe des choses. Une autre année, un des étudiants de Normalsup était plutôt archéologue et tout ça. Donc il a beaucoup tiré là-dessus. L'année dernière, on avait une fille qui était passionnée de théâtre, donc elle a plutôt tiré ce fil-là, avec beaucoup de mythologie, etc. Alors, tout le monde me dit, enfin, les financeurs dont parlait M. Trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui raisonnent sur le squelette et pas sur la chair et le muscle, disent, ben, alors, combien ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte et c'est quoi l'efficacité? Alors, donner l'efficacité de 40 heures ou 50 heures de grec à 15 ans, c'est dur à mesurer. Donc là aussi, c'est tout le drame de nos financeurs chéris d'aujourd'hui. C'est qu'on ne regarde pas le pourquoi on fait les choses, mais bref, le résultat. Donc voilà, donc c'est 2 heures par semaine. Bon, liberté totale à l'étudiante de faire ce qu'elle veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir un peu les chakras. Et quand je rencontre tout d'un coup un premier du BTS il y a quelques semaines qui me dit « moi, j'ai fait du grec », bon, c'est marrant, quoi. Et je me dis, il va peut-être se passer quelque chose un jour dans sa vie, quoi. Voilà. Mais derrière ça, on développe aussi beaucoup la culture entrepreneuriale, par les projets notamment. On fait créer dans un des 4 centres de l'AFOR, parce que là, j'ai une équipe pédagogique assez fortiche. On fait créer une entreprise virtuelle à chaque apprenti à la rentrée de septembre. Et le formateur ne fait pas de cours, il exprime des besoins d'entreprise. Voilà. Donc c'est numérisation de l'hôpital, c'est je ne sais pas quoi, travailler avec une artiste pour éclairer un truc ou pour faire bouger un truc ou pour rendre parlant une citrouille en béton qui, quand on s'approche d'elle, parle. Ben, y a des électroniciens qui ont fait tout le système à l'intérieur, mais c'était la première année de BTS. Voilà, c'est casser les cloisons verticales, horizontales, et Dieu sait si dans notre monde éducatif, il y en a. Le prof de BTS qui ne parle pas au prof de bac pro, le prof de français qui ne parle pas au prof de rien, on connaît. Donc nous, on casse tout ça grâce au projet et en raisonnant par les compétences. Ce qui fait que même en seconde, on a l'année dernière des gamins de seconde qui, à Noël, commençaient à suivre des cours de première année de BTS parce qu'en raisonnant compétences et projets, mais en informatique, il y a toute biture, donc autant aller choper en BTS et pas attendre 3 ans d'être autorisé à s'ouvrir à la connaissance. Voilà, donc on perturbe un petit peu les gens, l'organisation beaucoup, parce que c'est une volonté managériale forte et l'organisation est mise en place pour ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus... Le planning que vous avez pu connaître autrefois à l'école, c'est-à-dire 2 heures de monsieur un tel, 2 heures de madame un tel, 2 heures, etc. Ça, c'est fini, c'est mort. On a une journée communication culture, on a une journée expérimentation, modélisation pour tout ce qui est maths physique, 2 jours d'atelier et 1 journée projet. Donc plutôt que de rajouter du projet à des programmes avec des formateurs qui nous disaient, on n'a pas le temps, ben, on a mis le projet au cœur, et là, il faut bien faire. Voilà, pas simple, hein, je dis ça, tout est rose, mais il se passe des choses quand même assez étonnantes, quoi. Et surtout des éveils de gamins qui, à mon avis, l'auraient jamais imaginé, quoi. Et encore moins leurs parents. Et des entrepreneurs qui commencent à entendre parler de ça et passent commande. On a 3 apprentis qui travaillent sur un projet de casque à réalité virtuelle. Bon, et qui s'éclatent comme des malades. Voilà, on travaille sur le projet du stéthoscope du 21e siècle, qui est de fait un échographe avec appli téléphone pour le fin fond de l'Afrique. Et on travaille sur l'impression 3D, sur des trucs un peu dans l'électronique. Enfin, tout d'un coup, si vous voulez, les apprentis se sentent autorisés à avoir un cerveau, à se dire, je peux peut-être travailler avec un ingénieur, s'aperçoit qu'avec sa culture d'apprenti, de praticien et de connaissance de l'entreprise, il a plein de choses à apporter à un ingénieur. Donc il se passe des trucs assez marrants.
Merci beaucoup, bien sûr. Et nous allons nous mettre au grec ancien, je pense, tous en sortant.
Oui, bonjour, Philippe Varin, Piste Créative et Développement. Juste deux remarques. J'avais proposé effectivement depuis pas mal d'années que le grec ancien soit aussi réintroduit dans les lycées techniques. Moi, j'ai fait le lycée agricole, dans les lycées techniques et agricoles, parce qu'effectivement, le grec peut être éventuellement utilisé par tout ce qui est agricole, parce que pour des raisons de racines aussi, naturellement. Et donc, c'est pas encore fait, mais bon, ça pourrait se faire. Et c'est bravo d'avoir anticipé cette action. Deuxième remarque et question, c'est dire. Avec ce recul maintenant que vous avez introduit dans votre parcours de pédagogie, est-ce que, moi je travaille sur la création d'entreprise au sens créatif, est-ce que vous avez vu apparaître des, non pas seulement des entrepreneurs au sens des gens qui sont passés chez vous, des jeunes entrepreneurs, enfin, des créateurs d'entreprise, mais est-ce que vous avez vu des démarches qui devenaient plus créatives des apprentis, hein, c'est-à-dire qui devenaient créatifs sinon inventifs ou inventeurs, voilà.
Alors ça c'est une vraie question qui me taraude depuis très longtemps, c'est comment est-ce qu'on apprend la créativité ? Quand le terrain n'est pas très semé depuis longtemps, c'est compliqué. Moi, je pense qu'en autorisant, mais ça veut dire des adultes que je vais appeler quillés, et pas des adultes qui ont peur, donc des formateurs qui osent faire confiance, il se passe des trucs. La première année où on lance notre projet, j'avais un deal avec une artiste que je formais gratuitement au soudage. C'était une plasticienne qui voulait apprendre à souder. Et je lui avais dit, en échange, vous me proposez un projet. Elle avait une galerie dans Paris, près de l'Odéon. Vous me proposez un projet artistique que vous exposerez chez vous à la fin de l'année scolaire. Première année, c'était le visage, on faisait des totems, etc. Et le prof, la première journée qu'il lança, me dit après coup, c'était la Starac dans l'atelier, quoi. On avait donné une plaque de 40 sur 40 à des chaudronniers de CAP ou première année de bac pro. On leur avait dit visage. Et ils se sont éclatés pendant toute la journée. Et tout au long de l'année, ça a été extraordinaire. Après une œuvre collective de 2,50 m de haut. Voilà, donc je pense que si, comme toujours, les adultes sont complètement trouillards. Alors il était dit qu'ils n'avaient pas de souffle, mais pour moi, ils n'ont même pas d'âme ni de courage. Donc ça fait beaucoup qui manque. Donc s'il y a des adultes qui y croient, déjà qui croient un petit peu en eux, bon, qui croit au pays et qui croit à la jeunesse, normalement ça fonctionne. Mais c'est tout ça. Enfin, on a tous connu au moins une fois dans sa vie un prof qui vous ait confiance. Il y en aurait eu 10, ça aurait été à mon avis mieux, et la France serait peut-être un peu plus péchue aujourd'hui. Donc, mais on voit bien que la peur, c'est la peur de l'adulte qui dit, mais par exemple, quand je dis, mais on va manager de l'innovation, donc vous partez sur des projets et on ne sait pas où on va, et c'est pas grave, et si ça marche pas, c'est pas grave. On va plutôt relire après tout ce qui s'est passé et on va apprendre. Donc le processus, comme disait Monsieur Trouvé, plutôt que le résultat. Mais non, pour le prof de base, c'est le projet, c'est forcément un truc qu'il maîtrise de bout en bout. Et après, il dit comment il faut faire et il va venir noter en disant c'est nul, c'est insuffisant, etc. Non, on n'a rien à battre. Donc, débrancher un certain nombre de modes de fonctionnement chez des gens, qu'ils aient 25 ou 55 ans, tout, comme toujours dans l'innovation, tout existe, hein, dans tous les âges, les sexes, l'enseignement général est parfois 10 fois plus innovant que l'enseignement technologique et réciproquement suivant. Enfin, tout existe. C'est ça qui est assez magique d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais pour moi, c'est vraiment la confiance. Et quand on commence à dire à un gamin, plutôt que le premier jour de la rentrée, tu t'assieds par paquet de 25 à un prof qui va t'emmerder pendant 2 heures, et qui va lui-même, le prof, s'emmerder pendant 2 heures en général, ou faire de la discipline, dit bah, t'es debout dans l'atelier, voilà ce qu'on va faire dans l'année, qu'est-ce que tu veux faire comme projet ? Bah, tout d'un coup, il se passe des trucs. Alors, ça met plus ou moins de temps à réagir parce qu'ils sont plus ou moins ouverts à ça. Mais ça vient. Mais ça vient. Moi, j'ai quand même des gamins de première pro, quand on leur lançait ça, qui ont créé un petit MOOC sur l'électrotechnique. Des premières de bac professionnel. Vous parlez de ça à un énard qui vous dit, mais ça n'a pas de cerveau, un enfant comme ça. Bon. Et vous faites 10 fois mieux que son fils. Enfin, je ne veux pas faire de hiérarchie ou de choses comme ça, mais je veux dire, il y a un potentiel dans la jeunesse que moi, je forme. Alors, elle est bruyante, chiante, hein, mais même pas violente. Après Charlie, moi, j'ai fait des discours dans chacun de mes centres. Je leur ai demandé de faire une minute de silence en se prenant par la main. Ça a rigolé parce qu'il n'y a que des mecs, hein, sur les métiers industriels. Ils l'ont fait. Et applaudissements à la fin du discours. On l'a refait après, etc. Donc, ils sont prêts. Il y a juste à avoir des adultes qui les cadrent, les autorisent et pour qu'ils libèrent leur puissance. Moi, je crois beaucoup aux 3P, permission, protection, puissance. On donne du cadre, dedans, on fait ce qu'on veut, mais il y a un cadre adaptable. Et derrière, la puissance se libère. Et il se passe des trucs tout à fait étonnants. Alors, pas forcément 2 jours, etc. Mais quand vous faites un bac pro puis un BTS, bon, il commence à se passer des trucs. Quand vous leur faites un peu de voyage à l'étranger, une compétition internationale, décochez le marathon, vous faites une bagnole, etc. Donc, ils vont faire le show avec, à Rotterdam ou à Londres. Bon, il se passe forcément des trucs. Alors, comment ça se mesure ? J'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'estime avoir semé ce qu'il fallait pour qu'ils soient employables pendant 40 ans et à peu près heureux pendant 40 ans de leur vie. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc je nourris, donc éducation au choix, donc la méthodologie de l'orientation scolaire, qu'est-ce que je vais faire en entreprise, qu'est-ce que je fais, hein, prendre du recul par rapport à ce que je fais, pas être des moutons, quoi.
Ce qui suppose d'avoir une personne, je dirais même une personnalité pleine de conviction, pleine de passion pour ce qu'elle fait et pleine d'humanisme, hein, pour ce dont on parlait tout à l'heure. Et pour reprendre une phrase que vous avez dite plusieurs fois, il se passe peut-être quelque chose et c'est magique. Eh bien, il y a quelque chose de magique qui va se passer. Il y a une philosophe qui s'appelle Laura Lange, qui est doctorante en philosophie pratique et qui va se transformer en un chef d'entreprise qui va nous parler de son entreprise et de ce qu'il fait, parce que la philosophe a été bloquée par une histoire de train et ne sera pas là. Donc je demande à Jean-Marc Deveux de bien vouloir nous rejoindre.
Et puis à propos de flemme et de doute, hein, j'aime bien Shakespeare, quand il dit « Nos doutes sont des traîtres qui nous font perdre la victoire que nous aurions dû emporter si nous n'avions pas craint d'agir. » Voilà, donc il faut faire et arrêter de se prendre le chou.
Julien, photographe. J'ai une question. Je suis sensible à votre discours et aux actions que vous mettez en place. Et je me demandais pourquoi ce genre d'initiative n'est pas plus relayé, n'est pas plus visible et ne sert pas plus à un moment à diriger des institutions telles en effet l'éducation ou la politique au sens large. Est-ce que vous auriez une piste de réflexion de ce truc-là?
Moi, je vous l'ai dit, la flemme que l'autre est différent et que c'est pas grave et que ça fait pas de mal de, s'il peut se libérer ses énergies. Mais c'est comme en management ou même en éducation. Quand vous commencez à faire réfléchir, je me souviens quand on avait lancé des processus d'éducation au choix professionnel en collège, je me faisais engueuler par les parents d'élèves en disant, attendez, arrêtez de les faire réfléchir sur leur centre d'intérêt, les choses comme ça, c'est pas ton bac d'abord. En entreprise, quand vous cherchez à libérer les énergies des collaborateurs, grosse trouille, ils vont me piquer ma place. Donc soit vous êtes suffisamment sécurité ontologique, vous, et vous aimez piloter des Ferrari, mais tout le monde préfère piloter des deux chevaux, hein. Parce que si on est une 4L, on est moins peinard avec les deux chevaux. Et tout est là. Le prof, l'éducateur, c'est une prise de risque de mettre les gens, comme dans le film, debout, etc. Ben, en même temps, il y a des gamins qui apprennent à coucher par terre, d'autres debout sur une chaise, d'autres en chantant, d'autres en lisant, etc. Quand est-ce qu'on va prendre ça en considération? On est toujours dans le schéma français de solution unique, avec le collège unique, tout le monde doit faire le même parcours, etc. On est tous différents, on a tous un téléphone portable différent du voisin. L'éducation, elle reste la même pour tous. On est en 2016. Les bagnoles sont toutes différentes les unes des autres. Les téléphones aussi. Il n'est pas question d'avoir le même téléphone que son voisin. En même temps, on a le même cours. Il faut quand même chercher l'erreur. Donc le devoir d'individualiser, mais ça veut dire de l'ingénierie pédagogique pour les formateurs. Je ne sais pas s'il y a des formateurs ici ou des éducateurs. J'ai peur de dire du mal, mais c'est quand même la seule profession que vous recrutez pas, que vous ne recrutez pas sur les compétences à mettre en œuvre au quotidien. Si aussi un jour votre comptable vous dit... Oui, mercredi, je fais le compte d'exploitation, mais peut-être pas le budget quand même, parce que le budget, c'est un peu chiant. Mais un formateur peut dire ça. Un formateur peut dire, j'ai quand même 24 élèves, ce serait mieux à 12. Si vous êtes un pédago, vous faites avec les 24 et vous vous éclatez avec les 24. Mais quand vous n'êtes pas pédagogue, puisque vous êtes recruté sur diplôme, alors certains se révèlent des pédagogues, le sont, etc. Mais globalement, le mode de recrutement, ce n'est pas sur un amour des jeunes, de la transmission, de savoir, de savoir-faire, etc., et de compétences, c'est parce que vous avez un bac plus 5. Moi, je ne peux pas recruter un natif d'anglais s'il n'a pas un équivalent de bac plus 5. Il me faut un prof de français qui a un bac plus 5, qui va faire éventuellement ses cours en français plus qu'en anglais. Donc j'ai embauché l'année dernière deux réfugiés syriens comme prof d'anglais. Au moins, ils ne parlent pas français. Tout d'un coup, il se passe des trucs. C'est étonnant. Mais que dans un cours d'anglais, il faille parler anglais, si vous voulez, ça reste un mystère pour beaucoup, si vous voulez. Et puis après, c'est quand même un métier où moins je passe d'heures à exercer mon métier, mieux je me porte. Les 16 heures, les 5 heures d'enseignant-chercheur, etc. Ce n'est pas une critique, c'est juste un tout petit peu étonnant. C'est-à-dire le comptable qui s'arrête au bout de 16 heures en disant j'ai fini ma semaine, il est à temps, et où il y a beaucoup de chiffres, je m'arrête, ou il faut que je fasse ça à la maison. Il peut y avoir du télétravail. Enfin, c'est des vrais problèmes. Donc, comment s'occuper d'une jeunesse en plus quand vous autorisez les adultes à repartir à la maison, préparer leurs cours, les corriger, etc. Enfin, l'enjeu, c'est quand même la jeunesse. Moi, chez moi, mes mecs, ils sont là 37h30, donc ils sont contactables éventuellement par des jeunes. Donc, on s'occupe d'eux. Jamais assez, mais on est là. Si des gens viennent faire leur cours, et mes vacataires extérieurs qui viennent passer une heure et qui repartent, ils n'ont aucun poids, aucune... Ils ont le poids de leur savoir qu'ils ont transmis, etc. Mais on a du mal déjà à les faire rentrer dans les logiques de projet. Puis surtout, ils ne connaissent pas leurs élèves. Donc si vous êtes dans un monde de l'éducation, enfin, c'est comme vos enfants, enfin, il faut les voir un petit peu quand même. Donc c'est assez... Donc voilà, il faut un, faire confiance, deux, oser se mettre un peu en risque soi, ou penser qu'il n'y a pas finalement tant de risques que ça à autoriser les autres à y aller. Et puis on peut surtout donner du cadre. Sauf que depuis 68, le cadre, on n'aime pas trop ça en France, quoi. Pas trop d'autorité, pas trop de cadre, de la liberté, gnagnagna. Mais pourquoi pas? Mais quand vous donnez un cadre, alors là, surtout les jeunes, c'est 200%, bien plus que s'il n'y a pas de cadre. Et puis vous élargissez le cadre. Enfin, vous êtes un éducateur, me semble-t-il. Mais ça suppose, je pense, une sécurité ontologique qui n'existe pas assez dans le monde adulte, mais même dans le management, que M. Trouvé le disait très bien tout à l'heure. Le manager, s'il est très piloté par des objectifs et que par ça, s'il n'y a pas assez de sens, c'est compliqué de donner de la sécurité ontologique à ses collaborateurs, etc. Parce que vous-même, vous êtes un petit peu en défaut. Donc, c'est, honnêtement, ce n'est pas simple. Mais même d'être parent, ce n'est pas simple.
Merci beaucoup.
Oui. Je suis Anne-Marie Rouillet, enseignante de latin dans un collège unique.
Merde.
Je vous remercie du regard critique que vous venez de lancer sur l'éducation nationale. C'est vrai que c'est intéressant à entendre parce qu'on est souvent entre nous et c'est bien d'entendre quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur.
Non, mais attends, moi je prépare des diplômes de l'éduc, donc je passe sur les fourches codines de l'éducation nationale autant que vous, voire
plus. Je voulais vous demander quels étaient les retours que vous avez de la part des personnes qui emploient les jeunes ou les moins jeunes qui sont passés par votre centre de formation.
Comment dire ça? Alors d'abord, 90% des jeunes qui passent par chez moi trouvent un emploi. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous êtes sur les métiers, enfin sur les compétences dures, vous avez toujours du boulot dans le monde entier. Compétences molles, marketing et communication, c'est un peu plus compliqué. Mais texan de maintenance, vous en trouvez à Paris, à Poitiers, vous allez en Chine, enfin bon. Donc c'est quand même des métiers, c'est pour ça que c'est ahurissant d'ailleurs que ce discours ne soit pas porté, et de dire qu'il faut encore toujours faire du bac plus 5 tertiaire, des compétences molles, alors que le boulot, il a des compétences dures, payées 3 fois mieux. Mais bon, on préfère avoir un enfant instit payé au SMIC plutôt qu'un enfant soudeur payé 3 fois le SMIC, mais c'est comme ça. Ça reste un vieux schéma français. Je ne sais pas comment on s'en sortira. Donc, gros taux d'insertion professionnelle. D'abord, ce sont déjà des professionnels chez moi, puisqu'ils sont salariés, ils sont apprentis. Et en général, donc, ils trouvent un job, soit dans leur entreprise, soit ailleurs. Non, moi, j'ai fait tout ce qu'on fait à la FORP, on le fait, sans commande de personne. J'ai jamais eu une commande d'une entreprise me disant, tiens, j'aimerais bien que vous fassiez un peu de grec pour vos pré-apprentis. Mais c'est ça qui est passionnant, le métier de la formation, c'est que l'expression des besoins des entreprises est toujours très compliquée et de plus en plus. Ça va tellement vite, les technologies vont à toute vitesse. Donc elles ont du mal à vous dire exactement. En gros, elles disent savoir lire, écrire, compter. Ce qui est déjà compliqué, parce que moi, mes formateurs me disent qu'en BTS, ils ont 30% d'illettrés. Hein. Ils ont tous le bac. Hein. Bon. Regardez un peu les collantes au bac pro, c'est en général 5, 6, 7, maths, français, anglais. Et en BTS, c'est pas beaucoup mieux. Et vous partez pour 40 ans de vie dans l'industrie avec 7 en maths en BTS. Bon. Mais ça, personne ne le dit parce qu'il paraît que c'est interdit. Mais c'est dommage. Je pense que ça vaut le coup de regarder ça. De même, enfin, autre absurdité comme dans notre système, n'importe quelle institutrice de maternelle sait vous dire dans sa classe qui sera en échec à 16 ans. Elle sait vous le dire un par un. Rien ne se passe. Et à 16 ans, moi, je les récupère. Effectivement, ils sont en échec. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Donc il y a quand même un vrai problème. Donc je ne veux pas critiquer, il y a certainement des problèmes d'organisation, de je ne sais pas quoi. Putain, quand il y a la volonté de faire, putain, on fait. On fait des équipes pédagogiques qui disent ben, il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de jeunes sans qualification. Les fameux 150 000, vous divisez par 6 000 collèges en France, ce n'est pas très compliqué, ça fait 30 par collège. Ce n'est pas un enjeu excessif de dire à chaque collège, tu ne me sors plus de jeunes sans qualification. Donc on peut tout à fait faire les choses. Alors après, est-ce que les entreprises sont... Moi, le retour des entreprises que j'ai chez nous, il est plus mesurable sur la formation continue et les demandeurs d'emploi. Les apprentis, ils savent faire, mais tout ce qu'on fait faire autour, est-ce qu'ils ont fait du théâtre, etc. L'entreprise, je les trouve peut-être un petit peu plus autonome, mais l'entreprise, elle ne mesure pas, elle n'a pas le temps. L'entreprise, si le mec fait l'affaire, elle est très contente. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait un peu de théâtre? Est-ce qu'il a fait parce qu'un concours de slam extraordinaire? J'en sais rien. On a même lancé des concours d'orthographe entre centres de formation industrielle. Donc l'année dernière, on avait commencé à 2 centres de formation d'apprentis de l'industrie, Picardie et nous. Et cette année, on va être 16 à participer à un concours d'orthographe pour des apprentis industriels. On va un peu fou, mais c'est avec le projet Voltaire. Hein, parce que je fais passer, en complément du diplôme, je fais passer des certifications complémentaires à tous mes apprentis, dès le bac, TOEIC pour tous, Voltaire, habilitation électrique, secouriste du travail, et informatique, PCIE. Hein, pour arrêter de dire anglais, lui, écrit, parler. Quoi. Non, j'ai tant autoïque. Un truc reconnu. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très compliqué de faire ça parce qu'il n'y a pas de financeur que ça intéresse. Donc, on se débrouille avec nos petits bras. on travaille avec la région, mais c'est vrai que le grec, c'est sur nos fonds propres qu'on le prend, parce que ça n'intéresse personne de faire faire du grec à 15 gamins par an, ou maintenant 60. Encore qu'on essaie de faire entrer ça. Le théâtre, apparemment, c'est peut-être en train de passer. Mais à chaque fois, il faut passer sous les fourches clines d'un financeur qui éventuellement vous finance votre projet sur un an, deux ans, trois ans au mieux, et puis en général, il s'arrête après. Il n'y a jamais de continuité sur les choses dures et difficiles. Il n'y a pas de continuité d'action.
Et on a bien compris le gap dont maintenant on se rend compte de plus en plus entre des gens qui ont un réflexe et un raisonnement uniquement financier qui pour eux est justifié parce qu'ils disent ben, y a que les résultats qui comptent, etc. etc. Et puis on se rend compte que quand même c'est très partiel comme présentation. Voilà, je vais passer la parole, si vous le voulez bien, Jean-Marc Neveu. Donc, je n'en dirai pas plus. Je laisse Jean-Marc parler. Voilà, oui, ça doit marcher.
Tout d'abord, désolé, je ne suis pas Laura Lange, pour ceux qui étaient venus pour la voir. Je ne suis pas philosophe. Par contre, alors moi, mon métier, c'est chef d'entreprise. Et je suis très heureux d'être ici parce que à chaque fois, c'est très réconfortant d'entendre des discours comme celui de M. Navassel ou sur l'utopie, puisque c'est des choses sur lesquelles moi, je mets en œuvre dans mon entreprise. Et pour la petite histoire, j'étais chef d'entreprise en région parisienne et j'utilisais des apprentis de la FORP. On utilisait... Alors, j'ai poussé l'anecdote. Il y avait un concours qui s'appelait... Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Planète Métal. Hein, et en fait, l'idée, c'était... il y avait... alors, aujourd'hui, c'est peut-être un peu banal, mais je trouve que ce souvenir m'a toujours gardé, en fait. Hein. L'idée, c'était... alors, je sais pas, je parle sous contrôle, hein, mais d'avoir un concours où il y a une quarantaine d'élèves qui venaient dans les entreprises, plutôt collégiens, ouais, qui venaient dans les entreprises pour dire, pour essayer de rencontrer les chefs d'entreprise et les employés pour essayer de se faire une image la plus exacte et de rendre compte de ça. Il y avait un concours après et voilà. Et je me souviens toujours, alors 40 gamins, nous on est en région parisienne, il n'y a pas beaucoup de place dans les ateliers, et donc on se divisait en deux, il y avait une partie, on divisait le groupe en deux. Moi j'avais la partie, j'expliquais les métiers de l'entreprise, parce que, voilà, et puis il y avait la partie pratique, on va dire, avec l'atelier. Et je me souviens toujours des choses extrêmement frappantes, c'est-à-dire qu'on était à peu près dans une salle comme ça, et les gamins, ils disaient bonjour, ils saluaient, ils se marraient un peu. Bon, ils faisaient un peu les coquins, là. Et les profs, ils se mettaient au fond, collés au mur, et ils disaient rien. Et donc, il y avait des échanges avec les élèves. Et les élèves partaient, donc on changeait de groupe au milieu. Et les profs ne venaient ni dire bonjour, ni rien. C'était extraordinaire. Mais je me suis dit, mais... de quoi ils ont peur. Enfin, voilà, ça passe de ça. Mon deuxième lien avec les étudiants, c'est un souvenir très proche, là, puisque ça date de la semaine dernière. Il y a 40 élèves de l'UT de Châtellerault qui sont venus dans mon entreprise, parce qu'on organise avec l'UT de Châtellerault, on essaye de les stimuler par rapport à la créativité, justement, et ce que vous disiez, c'est parfaitement juste. Ils pensent qu'ils sont... bon à rien, et on leur demande de dire ben voilà, qu'est-ce que vous êtes capable, enfin, sortez du créneau là, de ça, c'est votre projet. Je parlerai après de mon autre engagement. Et donc les 40 gamins sont venus dans l'entreprise, même scénario, donc ça m'a resté un petit peu. Et du coup, ce qu'ils ont dit, c'était assez étonnant parce que j'avais posé la question au professeur, mais à quoi rêvent aujourd'hui les jeunes? Hein, je leur ai demandé. Les profs ne savent pas. Hein. Ils m'ont dit, je ne sais pas. Alors, donc, moi, ça m'a intéressé de savoir pourquoi ils ne savaient pas. Quoi. Et du coup, ce qu'ils m'ont dit, les gamins, j'ai dit, bah, voilà, on travaille sur un projet, sur un concours. Donc, c'est un truc monté toute pièce. Hein, un concours qui s'appelle « Dessine-moi un objet connecté ». Parce que les objets connectés, ça va être des objets qui vont être... qui vont envahir leur univers, hein, pas le mien, je serais déjà mort, je pense. Mais voilà, ça va venir tout, il y aura des objets. Bah, on est déjà un peu connectés, mais je pense que ça a une démesure beaucoup plus importante que ça. Donc ils doivent inventer un objet, et surtout, comment ça s'appelle ? Le business model qui est associé à ça. Hein, c'est pas l'objet en lui-même, bon, okay, mais voilà, les services, je prenais l'exemple d'une application qu'on pourrait mettre sur les là où ils gardent les vélos à l'IUT pour dire le nombre de places, enfin voilà, mais tout un tas de choses.
Parce que l'activité de votre entreprise, c'est quoi ?
Alors, je viendrai plus tard, c'est pas l'important. Donc du coup, les gamins, donc, on leur parle de ça, et à un moment donné, bah, j'ai ce discours sur les objets connectés qui sera leur monde. Et ils me disent, et ils me posent des questions, ils me disent, mais les machines vont être là en permanence, comment on va pouvoir les contrôler, l'homme, c'est quoi sa place là-dedans, etc. Et là, je dis, bah voilà, on y est. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont, eux, plongés dans un monde technologique, mais ils n'ont aucun repère pour en sortir. Et voilà, et qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des gens qui soient complètement plongés dans ce monde-là et qu'ils n'aient pas les moyens de le comprendre ? Et du coup, on peut aboutir à tout et n'importe quoi, parce que la technologie, simplement technologie, ça, c'est, il n'y a pas de sens derrière. Et c'est là où on part dans le mur, quoi. Et là, on se dit, attends, les gars, ils vont concevoir des machines, ils vont utiliser des machines, ils vont mettre en route des machines. Et derrière, ils ont cette frayeur, qui est à mon avis légitime, hein, de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir prendre de recul pour analyser ce qu'ils sont en train de faire et le sens que ça peut avoir dans leur projet de vie, parce qu'ils vont vouloir avoir des enfants, j'imagine. Mais voilà. Mais nous, alors, on est peut-être... Enfin, je suis peut-être la vieille génération. On a vu arriver ça. Donc, on a encore un peu de philosophie derrière, même si je ne suis pas philosophe, encore une fois. Mais on a un peu de background. Et donc, on a les moyens de comprendre ce qui se passe. Enfin, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je pense que... Voilà, eux, ils n'ont pas les moyens. Et il est d'urgence, à mon avis, c'est urgent de leur redonner des humanités pour pouvoir, eux, qu'ils puissent faire quelque chose avec ces technos-là. Sinon, on va avoir un gros problème. Alors, qu'est-ce que je fais ? Nous, on est des fabricants d'objets en plastique. Alors, on conçoit et on fabrique des objets en plastique pour le domaine industriel, pour l'aéronautique, pour l'automobile. Donc, on utilise à la fois de l'acier pour pouvoir fabriquer des moules. Donc c'est vachement simple, hein. Notre métier, c'est comme les gaufres au sucre, en fait, hein. Donc vous connaissez le principe. Vous avez un moule, un gaufrier, vous le chauffez, vous faites fondre le plastique, vous mettez la pâte liquide dedans, vous cuisez un petit peu, vous ouvrez le moule et hop, la pièce, elle est faite. C'est facile comme métier. Mais c'est un métier qui est intéressant parce que et je crois qu'il y a une caractéristique dans ce qu'on a dit, pour revenir sur les utopies aussi, et qui, à mon avis, aujourd'hui, est la clé aussi du système, c'est que dans mon entreprise, il y a une diversité de profils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas le bac, il y a des gens qui sont en fin de droit, il y a des gens qui sont techniciens, il y a des gens qui sont... et j'ai même un directeur culturel et un photographe, voilà. Ils sont là. Donc il y a une diversité des profils. Et du coup, ça, je pense que c'est ça la clé, c'est qu'à un moment donné, ces diversités-là obligent ou imposent ou nous imposent un devoir de créer cette relation de confiance entre les individus et que chacun peut contribuer à sa façon à ce projet collectif, hein, qui se construit, hein, qui n'est pas une donnée. Donc je pense qu'une vraie entreprise, c'est une utopie en permanence qui avance. Hein. C'est cette construction collective, et bien sûr avec les parcours perso des uns et des autres, hein, qui s'entrechoquent par rapport à ça, mais c'est une construction collective et permanente d'un projet de... Alors je ne vais pas dire un projet de vie, parce qu'on n'est pas mariés, mais un projet quand même de vivre ensemble, au moins pendant... 12 heures par jour ou 10 heures par jour pendant un certain nombre d'années. Et ça mérite, enfin il me semble, ça mérite qu'on se donne les conditions de réussir de ça. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans mon entreprise, c'est que les gens, enfin les personnes, ils viennent plus pour un salaire, uniquement pour un salaire. Ils viennent pour vivre quelque chose, une aventure collective qu'on peut imaginer avec des hauts et des bas, des difficultés parce que c'est pas simple. Et je suis pas là sur ce point, je suis un peu. Les entreprises doivent prendre ce temps-là, ce temps d'écart, ce temps. Alors moi, ma vision, c'est bien sûr que les entreprises doivent être dans le temps court. Hein, le temps court, c'est le temps de la production, de la richesse, la production, etc. La réactivité par rapport à ça. Mais elles doivent aussi absolument avoir dans son organisation des moments de temps long d'apprentissage et des articulations avec, bien sûr, les centres de formation, mais elles-mêmes aussi s'accorder du temps long. Et je crois que, en fait, si l'entreprise ne s'accorde pas ce temps long-là, c'est-à-dire que moi, je ferme l'entreprise et on part visiter d'autres entreprises, justement, pour aller partager ça, si elle ne s'accorde pas ce temps de respiration-là, elle est en train de mourir. Alors, c'est peut-être une des pistes de la mort des entreprises. Mais si elles n'accordent pas ce temps-là, elles vont dans le mur parce qu'elles prennent des décisions qui sont trop hâtives par rapport à la survie de l'entreprise ou par rapport à ça. Ça, c'est une configuration.
J'interromps juste un petit moment, Jean-Marc, pour demander à Arnaud Briot de venir nous rejoindre. Et les deux autres personnes restent. Voilà trois entrepreneurs du même côté de la table. Et deux de ces entrepreneurs faisant partie d'ailleurs d'un organisme bien connu qui s'appelle le CJD. Voilà, vous voyez, on se met la bise. Donc, c'est Confédération des jeunes dirigeants.
Pas du tout. Centre des jeunes dirigeants.
Centre des jeunes dirigeants.
Alors, pour finir, et je vais laisser la place à Arnaud. Arnaud,
tu peux finir.
Ouais, je suis aussi le CJD et membre fondateur de Entreprendre pour apprendre. Et donc, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui est régionale et qui a pour but de faire des mini-entreprises aux collégiens, lycéens, universités, etc. Et apprentis. Et pas apprentis, non. Mais à l'école de la deuxième chance, par exemple, ils ont fait.
On oublie toujours les apprentis.
Bah, les apprentis, alors, je ne sais pas. Non, mais les écoles de la deuxième chance, c'est quand même des écoles d'insertion. Il y a toute une partie d'insertion. Alors pourquoi pas les apprentis, je ne sais pas, j'en sais rien, pourquoi pas. Le but c'est quoi? C'est exactement ce que vous dites, mais voilà, de faire donner la possibilité aux jeunes de pouvoir créer leur propre désir de réalisation. Et ce qui est étonnant, c'est que des gamins qui sont en échec scolaire, et vous dites d'où vient la créativité, je pense qu'elle est dans les individus, hein, et pas ailleurs. En fait, être né, c'est aussi c'est une forme d'interrogation, une forme de créativité par rapport à ça. Et du coup, quand on met des jeunes en position de faire ça, entreprendre pour apprendre, eh ben, on voit qu'ils ont une créativité absolument insolente. Et deuxième clé, la deuxième clé, c'est quoi? C'est qu'on met autour des enfants, enfin des gamins, les ressources nécessaires. C'est pas le gamin qui va aller voir le banquier, c'est pas le gamin qui, après il va voir, etc. C'est on met autour du projet le banquier, le comptable, l'équipe pédagogique, etc. C'est cette co-construction dont je parlais tout à l'heure dans l'entreprise. Il faut l'avoir aussi pour les projets des gamins. Et puis le troisième point qui me paraît fondamental, et voilà, c'est le droit à l'erreur. Quoi. On a le droit de se tromper. Aujourd'hui, tout notre système est basé sur on n'a pas le droit de se tromper. Et ben, voilà. On n'apprend que de ses erreurs et de ses échecs. Et voilà, il faut essayer d'aller. Il y a une théorie là-dessus, je ne suis pas très, très fort là-dessus, mais d'aller d'échec en échec pour mieux apprendre. Mais on n'apprend que de ses échecs. Or, l'échec est sanctionné. Donc, ouais, comment vous voulez qu'on avance? Voilà, après je vais passer le micro à Arnaud. Moi, pour je ferai pas de sur la, c'est pas une citation d'un penseur, mais plutôt d'un poète. Je crois que la clé, et Arnaud il va être peut-être d'accord avec ça, quand on pose la question de savoir combien ça rapporte, combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça coûte. je pense qu'il faut déplacer ce truc-là, c'est dire que, c'est Éluard qui dit ça, que toute confiance et toute caresse se survivent. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, effectivement, c'est le centre des jeunes dirigeants et non pas la Confédération. Mais j'ai le droit à l'erreur, alors ça va. Une fois. Bien, alors, donc, merci. Arnaud Briot, d'après le programme, est donc un chef d'entreprise créatrice d'autonomie dans le champ social. Ça veut dire quoi?
Oui, c'est un grand mot. Je vous ai préparé une petite présentation, alors je vais voir si ça, on peut la projeter. En attendant... Je ne suis pas branché. En attendant, je vais me présenter. Donc, c'est là. Et est-ce que c'est allumé là-haut? Je ne sais pas. Alors. Donc, en attendant que ça démarre, je vais me présenter. Donc, déjà, bonjour à tous de vive voix. Donc, je suis Arnaud Briot, je suis directeur associé et créateur de Domalis. Donc, Domalis, c'est, la baseline de Domalis, c'est créateur d'autonomie. Donc, ça va bien dans le thème. Je lance. Donc, en quelques mots, hein, Domalis a été créé il y a quelques années, il y a 3 ans exactement. Qui est en fait le fruit d'un travail collaboratif. On travaillait en sous-traitance et on souhaitait sortir de la sous-traitance et apporter un peu plus de valeur ajoutée au sein de notre entreprise. Et du coup, au fil des années, on a commencé à développer des produits pour nos clients. Puis on s'est dit, tiens, si on est capable de développer et de fabriquer des produits pour nos clients, est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller au-delà et de développer une nouvelle activité sur un nouveau marché porteur. Voilà, en quelques mots, qui est... Alors là, est-ce que ça se lance? Ah, il est en bas. Donc, tac. Toujours les jeux de l'informatique. Ah, voilà. Ça. Et ça devrait le faire. Et la zapette, c'est merveilleux. Donc, je l'ai basé en trois thèmes par rapport à Domalis, l'entreprise créatrice d'autonomie dans le champ social. J'ai mis les fondements, on va voir un peu les fondements. Quels sont les fondements de Domalis? Une partie un peu organisationnelle sur la partie management et méthode qui facilite la création d'autonomie. Et après, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait et justement des produits qui ont été développés par Domalis pour justement apporter plus d'autonomie aux personnes fragilisées. Alors tout d'abord, dans les fondements, on a parlé de vision, il y a une chose qui est capitale, pour c'est un peu comme une maison ou comme dans un couple, il faut des bonnes bases. Et il faut des bonnes fondations, et ces bonnes fondations, elles se basent sur les valeurs notamment. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a, grâce au CJD aussi, hein, clairement, on s'est pris du temps, et là, on est dans le temps long, on s'est pris du temps pour définir ensemble, avec tous les collaborateurs, quelles étaient nos valeurs et qu'est-ce qui était important pour nous pour pouvoir bâtir l'entreprise sur le long terme. Alors, voici un peu les grandes valeurs que nous avons définies avec toute l'équipe. Alors je vais les balayer rapidement, mais vous expliquer un peu quelques points. L'écoute pour nous a été clairement quelque chose de capital et de central. L'écoute vis-à-vis de nos clients, parce qu'il faut être, on est au quotidien à l'écoute sur le terrain pour essayer de comprendre leurs problématiques, leurs besoins, leurs attentes, et toujours mieux les satisfaire, parce que c'est quand même notre rôle de pouvoir faciliter, embellir le quotidien des personnes âgées. Et du coup, pour ça, il faut être à leur écoute, à l'écoute des utilisateurs finaux. L'écoute de nos partenaires, parce qu'on n'est pas une entreprise qui travaille pour un client, mais on est dans un écosystème. On travaille vraiment de manière connectée avec plein d'entreprises, à la fois nos partenaires qui fabriquent des sous-ensembles, mais à la fois dans les compétences techniques, on parlait des objets connectés. Voilà, on travaille vraiment de manière, j'ai souvent tendance à dire, moléculaire. Et c'est vraiment ça, on est vraiment, je dirais, un maillon d'une chaîne ou d'un un peu un processus de chaîne ADN aussi, on pourrait dire. L'écoute de nos collaborateurs, c'est capital, c'est le moteur de l'entreprise, c'est tous les talents réunis. On parlait de diversité, c'est vraiment cette diversité des talents qui fait que ben, au sein de l'entreprise, on va pouvoir développer et puis faire route ensemble. Donc c'est très important de prendre ce temps, on parlait de temps long, temps court, mais voilà, prendre ce temps, d'être à l'écoute de nos collaborateurs, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. On n'est plus dans le mode à un moment je suis au boulot, après je suis à la maison. Maintenant avec le numérique, ben, tout est mélangé. Alors ben, voilà, il faut vraiment qu'on prenne soin, et moi j'apporte une attention extrêmement particulière à ça, prendre soin des collaborateurs quand ça ne va pas. Voilà, là j'ai eu l'exemple d'une collaboratrice qui était arrêtée, ben voilà, l'appeler pour savoir comment ça va, prendre des nouvelles, et puis voilà, de la bienveillance, quoi. Et l'écoute aussi, elle vient aussi sur la veille, la concurrence des marchés, etc. Parce que si on est trop dans notre monde, et ben, si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, ben, on passe à côté de plein de choses. Et du coup, voilà, ça c'était vraiment un des piliers forts, vraiment unanime dès le début, quoi. Après, je vais parler rapidement sur les autres parce que je ne vais pas non plus m'étaler. Mais voilà, l'innovation au sens large, pour nous, elle est importante. Elle n'est pas seulement comme un produit, on parlait de la partie technologique, mais en fait, elle est partout, l'innovation. Et c'est extraordinaire, dans un monde en plein changement. Et ce n'est pas seulement le change, ce n'est pas voilà, les produits techniques, technologiques, mais c'est aussi managérial, organisationnel, voilà, comme ce que fait aussi Jean-Marc au sein de son entreprise, voilà, avec le fait de faire venir les jeunes, de faire des photographes. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc ça aussi, c'est du... innovation au sens organisationnel. La responsabilité de nos engagements, de nos actes. On parlait de sens tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont un vrai besoin de sens. Quoi. Ils ne viennent pas pour, comme disait Jean-Marc, juste pour toucher un salaire, mais ils viennent pour faire sens à leur vie. Et ça, c'est extrêmement important. La génération qui arrive, la génération qu'on appelle Y, et maintenant la Z, alors c'est vrai qu'on stigmatise énormément, mais eux ils ont une quête de sens qui est réellement énorme, et on voit beaucoup même de jeunes qui sont dans des très belles entreprises, qui ont des études brillantes. Je pense à un ami là qui bossait, qui était très bien placé dans un grand groupe du bâtiment, et qui a fait le choix de tout quitter, et là il travaille pour un petit ferronnier d'art. Donc voilà, il cherchait plus de sens dans son quotidien, et donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, responsabilité après au niveau social, sociétal, environnemental, voilà, on se veut d'être cohérent aussi dans tout ce qu'on fait. Et ce qui est important, on parlait du CJD tout à l'heure, en fait le CJD a fait le choix de que l'entreprise soit au service de l'homme et non l'inverse. L'idée, c'est pas que l'homme soit un outil et un pion pour l'entreprise, mais c'est vraiment que l'entreprise soit à son service, soit au service de l'homme, soit au service de ses collaborateurs pour qu'ils grandissent, pour qu'ils puissent apprendre de manière continuelle. J'écoutais encore hier une conférence d'une fille très brillante qui s'appelle Emmanuel Duez, qui a monté The Boson Project, et justement. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, je suis parti dans mes pensées. Qu'est-ce que je disais avant ? Bon, bref, c'est pas grave. Excusez-moi. Donc voilà, après, voilà, dans les différents fondements, l'excellence, la passion, je vais passer un peu rapidement, on parlait d'encourager les talents. Donc voilà. N'hésitez pas à me couper hein, si je parle trop. On s'est défini aussi dans les fondements, il y a les valeurs, mais il y a aussi la mission qu'on se donne. Donc chez Damalis, on s'est donné comme mission celle-ci, celle d'embellir et de faciliter le quotidien des personnes dépendantes et de leur entourage. Voilà, on est fiers de travailler au quotidien pour ça. Et c'est tellement important pour nous qu'on l'a affiché en grand dans nos locaux pour que à chaque instant, quand on a des questions et qu'on se pose, on se dit, est-ce que ça, on fait le bon choix ? Eh bien, en fait, on se réfère à notre mission. Et c'est ça qui nous guide. Donc voilà, c'est un peu notre sens quotidien.
Est-ce que vous voulez des questions ? Il y en a une qui apparaît tout de suite. Comment se fait le choix des décisions ? Enfin, la décision se prend quand embellir et faciliter le quotidien des personnes dépendantes et de leur entourage, et quand il y a des exigences qui deviennent exagérées. À quel moment est-ce que vous sentez que vous devenez un peu, si j'ose dire, manipulé par, j'emploie un mot très fort, hein, mais par la personne dépendante qui est toujours en demande d'affection, d'affectivité, de contact, etc., quitte à ce que ce soit au détriment des autres. Donc vous êtes dans une position obligatoire de choix. Il n'y a pas à privilégier une personne, ou alors très exceptionnellement, plutôt qu'une autre. Et pareil pour l'entourage, qui quelquefois compense le fait, c'est bien connu, d'avoir une personne en maison de retraite, oui, par une espèce d'hyperactivité extérieure. Enfin, je pense que vous avez dû connaître ça aussi. Non ?
Alors... comment on fait ce choix ? Alors, on a aussi conscience qu'on ne pourra pas forcément répondre à tout pour le moment. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait un peu le choix de se dire, bah, tiens, pour l'instant, on part dans cette orientation-là, notamment dans notre stratégie. On a décidé de dire, on part d'abord vers les EHPAD parce que, ça sera en B2B, donc en business to business, et ça c'est quelque chose qu'on savait faire avant, et après on ira en B2C vers le particulier, et pareil au niveau des choix, dire tiens, est-ce qu'on part plutôt pour une maison publique, privée, ou est-ce qu'on catégorise encore plus des gens très urbains qui ont un peu plus d'argent, et après des gens qui sont ruraux qui en ont un peu moins. Alors voilà, c'est pareil, c'est qu'au début, il y a aussi une réalité économique, et du coup, il faut faire ces choix-là. C'est-à-dire, il faut d'abord que, aussi, on puisse, que ça puisse avancer et faire nos premiers pas. Et puis après, on ira vers... voilà, il y a des choix, on va dire. C'est toujours un vaste équilibre. Et voilà, c'est trouver ce bon dosage, quoi. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même cette réalité d'entreprise économique, il faut que l'entreprise soit aussi viable pour qu'elle puisse continuer sa mission. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Merci.
Voilà, merci. J'ai mis quelques extraits de notre, de notre formation, du processus d'intégration, parce qu'au niveau du recrutement chez Damalis, on s'accorde beaucoup. Je parlais des valeurs au début, c'est ce que j'ai mis en premier. Mais en fait, on ne recrute pas sur les compétences, on recrute sur les valeurs. On a trop souvent fait, on s'est rendu compte que généralement, on recrute sur les compétences et les gens, on se sépare d'eux pour leur comportement ou pour leurs valeurs. Donc du coup, on a fait le choix de se dire, ben voilà, on va plutôt recruter d'abord sur les valeurs. Les compétences, certes, ça reste quand même important, mais les gens peuvent toujours apprendre. Et du coup, pour nous, c'était plutôt c'est plus important de recruter sur les valeurs. Et du coup, voilà, c'est quelques slides de tout le processus d'intégration. Voilà, l'idée, c'est qu'on veut aussi de se dire, on s'inspire de la fiche philosophie. Alors ça, c'est un petit bouquin que je vous conseille, qui est extraordinaire. C'est en fait en deux mots, une jeune femme qui travaille dans un grand groupe de c'est à Seattle, je crois, de recouvrement, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, elle est mutée dans un service où ça se passe très très mal. Et du coup, elle se dit, ben voilà, j'étais mis au placard, comment je vais m'en sortir ? Et là, entre midi et deux, elle va au marché de Seattle et elle voit une ambiance extraordinaire. C'est une histoire vraie. Hein. Les poissons qui volent au-dessus de... au-dessus des différents des différentes étals, et elle dit mais c'est comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est ce nœud d'amitié avec un des poissonniers qui, justement, intervient après au sein de l'entreprise et qui fait évoluer, je dirais, son équipe dans cet esprit-là. Et du coup, il y a plein de belles choses qui sont racontées là-dedans. Et du coup, c'est un petit bouquin qu'on conseille avant de rentrer chez Domalis. Mais voilà, ça revient un peu dans ces quatre thèmes-là. Voilà, c'est choisir son attitude, avoir une attitude positive. On arrête de râler, on pense plutôt positif. Qu'on peut aussi travailler en jouant et qu'on n'est pas forcément là. Voilà, c'est possible de faire les deux. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les élèves apprennent beaucoup plus en jouant qu'en apprenant derrière un écran ou derrière un cours magistral. Voilà, être présent pour l'autre, puis voilà, faire plaisir à l'autre, avoir de l'empathie et de la bienveillance. Dans les fondements, qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, alors quelques petites phrases qu'on aime bien. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment être acteur. On est chacun acteur, on est chacun responsable en fait de notre propre vie et propre notre propre vie. Qu'on arrête la morosité ambiante en commençant par être nous-mêmes, être positif, engagé, dynamique. On arrête les bons courages. C'est un livre de Philippe Bloch qui nous dit ne me dites plus jamais bon courage, parce que c'est vrai que c'est assez négatif. À chaque fois, on sort de quelqu'un, bon courage. C'est-à-dire, ça veut dire que tu vas souffrir. Ça fait un peu peur. Et après, quelques autres phrases. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. On parlait de l'échec tout à l'heure. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de. On se rend compte que. Quand on favorise l'échec, quand on accepte ce droit à l'erreur, eh ben, on se rend compte que la créativité et les capacités d'atteindre des choses inatteignables deviennent atteignables. Et ça, c'est juste assez extraordinaire. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et on est étonné de ce à quoi on arrive quand on ne se met pas de limites. Ça, c'était des petites phrases qu'on s'est mis. Alors, on a imprimé plein de. Quand on a des nouveaux locaux là, à Domalis, au niveau de Fontaine-le-Comte. Et du coup, dans nos locaux, sur les carreaux par terre, on a mis plein de petites phrases comme ça, pour embellir le quotidien, on va dire. Le CJD, on en a parlé ? Non, je vais passer. Je n'ai pas besoin. Donc, je fais partie du CJD depuis, depuis maintenant 8 ans, je crois. Le mouvement permet de réfléchir, d'expérimenter, de se former, de s'engager et de développer. Là, je vais parler plutôt. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu les fondements. Pareil, quelques exemples, plus au niveau organisationnel, pour permettre, je dirais, l'autonomie au sein de l'organisation. Qui dit autonomie dit aussi une certaine organisation, une certaine structure. J'ai mis quelques exemples comme ça. En fait, nous, tous les lundis matin, on se fait un petit point hebdo où on a donc plusieurs sites. On a un site sur Fontaine-le-Comte, un site sur l'île Jourdain où il y a la partie production. Et puis, on a tous nos commerciaux qui sont à droite à gauche aux quatre coins de la France. Et du coup, on se retrouve tous le lundi matin à 9h. C'est un petit peu notre point de rencontre. Et du coup, l'idée, c'est de faire un petit peu le bilan de la semaine passée et puis de se projeter sur la semaine à venir, sur les grands moments. Et on démarre par ce qu'on appelle le Scrum. C'est un certain jargon. Mais on fait un petit tour de ce qu'on appelle un petit tour météo. Où déjà, l'idée, c'est de dire dès le départ, à chacun, on demande comment ça va. Et puis, ça permet aussi de savoir dans quel état on est, si on est réceptif ou pas, si. Finalement, en fait, j'ai passé un mauvais week-end parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que mon enfant a une gastro, ou parce que, il m'est arrivé quelque chose dans la famille. Mais au contraire, j'ai passé un super week-end et je suis en pleine forme et je suis super content d'être là. Donc voilà, ça permet aussi d'être un peu en empathie, de prendre conscience dans quel état est chacun pour bien démarrer la semaine. Et puis après, on fait notre petit rituel avec la revue des différents points. Sur lesquels on veut aborder, mais de manière très rapide. L'idée, c'est pas de passer des heures en réunion, ça reste très efficace, très structuré, et pour pouvoir lancer la semaine et que chacun soit autonome, même s'ils vont travailler après chacun ensemble de manière collaborative, mais pour que chacun sache les grandes missions, les grandes choses qu'il y a à faire dans la semaine. Donc voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail par rapport à ça. Et puis voilà, après on enchaîne derrière. Donc on a cette, en fait, en amont, avant de cette réunion où on se retrouve tous, on dit qu'on va en amont sur le site de production, il y a la réunion de production qui renvoie les informations à la, au moment du Scrum. Et après, on enchaîne après plus en grand pôle sur la partie bureau d'études, conception, industrialisation, et après sur la partie commerciale. Et voilà, ça permet du coup le lundi matin, une demi-journée qui est un peu concentrée et sacrée à ça, mais de tout balayer et de lancer la semaine. Et c'est vrai que ça casse, ça structure. Alors, on est une vingtaine. Il y a à peu près 5 commerciaux. On a 5 sur le site de production. Et puis, c'est comme tout à l'heure, je vais le dire après. Non. On va vous voir après, mais on fait tout ce qui est équipement, mobilier et objets connectés pour les personnes âgées.
Vous savez qu'ici, à l'EMF, il y a, j'ai lu ça, les mamies connectées.
Les mamies connectées ?
Oui, oui.
Je ne les ai pas vues encore.
Oui, oui, c'est très intéressant. C'est des mamies donc, qui se réunissent avec un animateur toutes les semaines et qui apprennent à se connecter les unes les autres. Ça a l'air d'être très à la fois amusant et, comme vous le disiez vous-même, c'est de la pédagogie, quoi, finalement. Ouais. Et ces dames... peuvent très bien après dialoguer, enfin je suppose que je ne les ai pas interviewées, mais elles doivent discuter d'autant plus facilement avec les petits-enfants qui, eux, sont naturellement connectés, quoi. Et donc, j'ai trouvé que c'était une initiative de l'EMF particulièrement intéressante.
Oui, très belle initiative. J'ai regardé de plus près. Je vais vous parler rapidement de ça. Le Lean Startup, c'est une méthodologie qu'on met en place pour développer nos produits avec les utilisateurs. L'idée, c'est pas qu'on soit dans le mode j'ai une super idée et puis après je vais la vendre. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est on va voir sur le terrain. J'ai passé au tout début d'ailleurs une semaine dans un EHPAD à essayer à être auprès des résidents, des aidants. Des infirmières, des soignantes, etc., à comprendre leurs problématiques et leur quotidien. Et les ingénieurs aussi, pendant leur cursus de formation, ils passent une à deux journées en EHPAD, en immersion totale, pour vraiment être au contact et vraiment comprendre leurs problématiques au quotidien. Donc voilà, donc on part du besoin de l'utilisateur final. On essaie de comprendre ses problèmes, etc., ce qui va, ce qui ne va pas. Et de là émergent plein de choses, il y a plein d'idées. Quand on est au cœur. Et du coup, de là, tout de suite, on essaie de créer un prototype. Alors, ça peut être une table ergonomique, je vais vous montrer tout à l'heure, une petite table ergonomique. Au début, c'est pas ça. Au début, c'est, c'est les besoins, c'est j'ai ça qui existe, mais c'est trop petit, ça se nettoie mal, j'arrive pas à la ranger, c'est pas maniable, c'est trop dur, je me fais mal au dos. C'est beaucoup de choses comme ça. Et là, l'idée, c'est de retransformer ça en produit. Et du coup, on tout de suite, rapidement, on développe un produit avec quelques fonctions, pas forcément toutes d'ailleurs. Et on le met tout de suite sur le terrain. On le met tout de suite sur le terrain, mais on ne le met pas sur le terrain. On essaie de faire un produit qui soit déjà un peu fini. Mais on le vend. En fait, on le package déjà pour le vendre. C'est-à-dire qu'on vend un produit, ça s'appelle un produit minimum viable. C'est un produit. Et qu'on vend déjà. Pourquoi on fait ce choix de dire on le vend ? En fait, on souhaite que la personne achète, parce que si la personne ne fait pas cet acte d'achat, le risque, c'est qu'à chaque fois, elle dit non, mais il faudrait rajouter ça, il faudrait rajouter ci. Et au moment où on arrive, après plusieurs années ou plusieurs mois de conception de produit, on arrive à un rafale, un produit qui est fantastique, mais personne n'en veut parce que c'est trop cher. Donc ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est justement de faire un produit qui corresponde à des vrais besoins, des vraies attentes. Et du coup, ce produit, on a quand même des retours. On regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On corrige. Et après, on refait un autre produit. On fait plusieurs cycles comme ça très rapidement. Et au bout de tous les un mois, deux mois à peu près, et au bout de 6-8 mois, on a un produit qui est stabilisé et qu'on commercialise. Et du coup, à la fin... Ce qui est bien, c'est qu'on a des produits qui sont très aboutis et on a des très bons retours sur le terrain, et tel point que les gens nous disent mais c'est vraiment, c'est génial, vous avez pensé à tout. On a dit, mais non, mais en fait c'est pas nous qui avons pensé à tout, c'est vous, parce que c'est vous qui avez été au cœur dès le début de la co-conception et de la construction du produit. Donc voilà un petit peu la moyen dont on... Bon, là aussi, c'est des bases sur lesquelles je le mets rapidement, mais c'est ce qui m'a formé pendant ma jeunesse quand j'étais dans l'automobile. Mais il y a des choses qui sont intéressantes quand même, et du coup, je les ai remis là. Mais il y a 10 points de l'esprit Kaizen qui sont intéressantes. C'est abandonner les idées fixes et refuser l'état actuel des choses. Toujours se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment. Au lieu d'expliquer ce qu'on ne peut pas faire, réfléchir à comment faire. Réaliser aussitôt les bonnes propositions d'amélioration, au lieu de dire bah non, ouais, on peut affirmer, on peut faire ça, bah, faisons-le, allons-y. Et là, on est vraiment dans l'autonomie des personnes, dire bah, allez, allons-y, on le fait. On ne cherche pas la perfection non plus, mais si on fait déjà mieux, bah, c'est déjà très bien. Alors allons-y, c'est pareil, ne perdons pas de temps. Corriger les erreurs immédiatement sur place, s'il y a un problème, bah, c'est bien de signaler le problème, mais autant le corriger tout de suite. Ça ne sert à rien d'attendre. Trouver les idées dans la difficulté, ben on le voit, hein, c'était généralement dans les moments où il y a les plus grosses difficultés et qu'il y a souvent les plus belles innovations qui sont faites. Quand on voit aussi c'était souvent aussi en état de guerre, malheureusement, pour les cas les plus graves, qu'on retrouve, c'est là où il y a eu les plus grandes innovations. Hein. Chercher la cause racine et respecter les 5 pourquoi, alors ça c'est très, très ingénieur, on va dire, mais... L'idée, c'est de trouver le vrai problème pour traiter le problème à sa base et pas traiter une conséquence. Là, on parlait tout à l'heure de diversité. Ben ça, c'est capital. Prendre en compte les idées de 10 personnes au lieu d'attendre l'idée géniale d'une seule. C'est vrai, quand on met 10 personnes autour d'une table qui sont tous différentes, un opérateur, quelqu'un, un ingénieur, quelqu'un du marketing, un commercial, et ben, on va tout de suite trouver, alors tout de suite ça prend un peu de temps, mais on va trouver vraiment la bonne idée et la plus appropriée. Essayer ensuite de valider, ben ça c'est très lean startup, c'est-à-dire qu'on teste, ça marche, c'est super, ça marche pas, ben tant pis, on abandonne. Et l'amélioration est infinie, on peut toujours s'améliorer.
Mais ça c'est la théorie, est-ce que...
C'est la pratique, c'est très concret.
Et les 20 personnes adhèrent à cela. Comment est-ce que vous pouvez faire passer ça auprès de toutes les personnes de l'entreprise ?
Ben justement, au moment où les personnes sont intégrées à l'entreprise, dans ce processus de formation, c'est des choses qui sont abordées et qui sont une des bonnes pratiques. C'est intégré, tout à fait. Je vais vous parler un peu peut-être du coup de ma liste, de ce qu'on fait. Le marché en quelques minutes. Le marché, donc nous, on travaille, comme vous le savez, pour les personnes âgées. Donc les seniors, c'est une génération en plein boom. Hein. On va passer de plus de 15 millions à 20 millions de personnes en 2030. Et la population représentera plus de 46% de la population en 2050. Donc quasiment une personne sur deux. Donc il y a une vraie problématique, une vraie opportunité. Des enjeux énormes par rapport à ça, et les objets connectés, notamment tout à l'heure on en parlait, seront aussi une des pistes par rapport à ce marché en pleine évolution. Je vais vite, moi je suis à la fin, alors attendez, je fais des bêtises, tac tac tac, excusez-moi, alors pour parler du marché en deux mots, je suis peut-être trop long. Je suis trop long en fait. Je parle trop. J'ai rajouté des slides. C'est pas ça que je veux faire. On va y arriver. Hop. Oui, il y a deux effets, l'effet du papy boom et puis l'effet qu'on vit de plus en plus longtemps, et un troisième effet qu'on connaît moins, mais c'est le fait qu'il y aura de moins en moins d'aidants par rapport aux personnes âgées. Et du coup, là, il y a une vraie problématique d'un nombre d'aidants qui va chuter drastiquement par rapport au nombre de personnes âgées. Et donc là, c'est un des enjeux majeurs aussi pour trouver des solutions et des services par rapport à ça. Je passe rapidement parce que je suis trop en retard. Donc j'ai expliqué un peu ce qu'on faisait. Donc les équipements qui améliorent le quotidien des résidents. En deux mots, l'idée c'était de dire il y a les produits qui viennent du médical qui sont très pratiques et les produits qui viennent de l'hôtellerie restauration qui sont très beaux, mais pas forcément pratiques. Est-ce qu'on ne peut pas allier les deux, le pratique et l'esthétique? J'ai parlé des enquêtes sur le terrain, etc. Alors nos produits, tous les produits qu'on a développés, c'est des produits qui n'existaient pas avant sur le marché. Je parlais d'ailleurs d'écoute sur le marché. Ça ne sert à rien qu'on conçoive un produit qui existe déjà. Ça a déjà été fait. Donc l'idée, c'est que tous les produits qu'on fait, qu'on développe, c'est des produits qui n'existaient pas avant. Alors, on a notre première année qui est l'Oxalis, qui est une table ergonomique multi-usage. On va le voir en détail. La glisse, l'aménagement de chambre, le Noctulis, qui est un assistant de levée nocturne. En quelques mots, l'idée, c'est toujours dans des... C'est beaucoup dans les détails. Alors, il n'y a pas de révolution extraordinaire. Je suis désolé, c'est en anglais. L'idée, c'est que c'est des, la table Oxalis, par exemple, l'intérêt, c'est qu'elle peut s'assembler sous forme de marguerite pour permettre à l'aidant d'être au milieu, d'accompagner les résidents. On parlait tout à l'heure de problématiques de place. Bah, quand on n'a pas besoin, on l'appli, elle se range en caddie. Les problématiques d'hygiène, on a développé une petite réglette qui est aimantée. Du coup, quand on n'a pas besoin, on l'enlève, ça facilite le nettoyage. Mais grâce à ça, typiquement, dans la co-conception, on s'est rendu compte que les utilisateurs, ils l'utilisaient pour autre chose. Ils l'utilisaient pour coincer une serviette, pour coincer une feuille, pour pouvoir dessiner. Et donc, voilà, en fait, le fait d'être à plusieurs avec des gens de diverses raisons, on a développé et eu des nouveaux usages, on va dire. Jusqu'à ce que la réglette soit utilisée pour récupérer les couverts quand ils sont tombés par terre, parce qu'elle est aimantée. La table glisse, c'est une table plus conviviale aussi, avec un petit bouton central qui, en appuyant dessus, ça se règle de manière automatique. Des petites roulettes qui sont intégrées au bout pour la déplacer facilement, un peu comme une boîte, pour réaménager l'espace pour pas que les infirmières ou les aides-soignantes se cassent le dos quand elles réaménagent la salle. Voilà, plein de petits détails comme ça, je passe. Rapidement, la chambre modulaire, donc suspendue, pour faciliter le nettoyage encore, des poignées arrondies, on a travaillé aussi sur, pour l'autonomie de la personne âgée, alors des poignées surdimensionnées pour qu'elle puisse vraiment s'appuyer dessus, savoir où elle est. Les angles sont arrondis pour éviter les risques de coups et de blessures. Voilà, tout ça, c'est des choses qui viennent de ce travail ensemble et qui... Du coup, après, permettre à la personne âgée de pouvoir rester et vivre chez elle. Où, là, c'est pour le coup, c'est plus particulièrement en établissement. Et le Noctulis, c'est un des derniers produits qu'on a développé. En fait, à la base, on est plutôt dans le domaine industriel, très, on va dire, un peu mécanique, ces choses-là, le métal, le bois. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on a une de nos... un de nos clients qui nous dit, une directrice d'EHPAD qui dit il faut vraiment que vous nous aidiez, on a un vrai problème avec les chutes. On a des résidents qui chutent énormément et c'est un vrai problème de société. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, grand sujet. On a essayé de comprendre d'où venaient ces chutes. Les chutes, en fait, elles viennent principalement la nuit entre la chambre et puis les toilettes. Et il faut savoir que quand même en France, ça doit représenter environ 12 000 morts. Il y a quand même 12 000 morts qui décèdent en conséquence d'une chute, soit 3 fois plus ou 4 fois plus que les accidents de la route. Et du coup, on a développé un système qui est un boîtier équipé de capteurs qui se pose sous le lit. Et quand le résident se lève la nuit, ça éclaire un chemin lumineux. Il n'a plus à chercher la lumière. Et la lumière, quand elle s'allume, ça ne l'éblouit pas. Parce que généralement, quand on se lève la nuit, on cherche le bouton, on ne le trouve pas toujours. Donc c'est là où on peut chuter. Ou alors quand on le trouve, on allume la lumière. Et là, on a 70 watts en pleine figure. Et ce n'est pas très agréable. Et les personnes âgées, c'est aussi une des raisons pour laquelle chute. Donc grâce à ce produit qu'on a développé au départ en bricolant quelque chose, En le mettant en place, on a eu des super retours et on a dit ah ben super, maintenant j'ai envie d'équiper toute l'aile. On a dit attendez, c'est pas totalement au point. Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, on a recruté des nouvelles compétences qu'on n'avait pas dans le domaine électronique, dans le domaine informatique. Et puis maintenant, on a fait quelque chose de connecté puisqu'on a une application qui va avec et on est capable de savoir quand le résident s'est levé. Pour pouvoir l'accompagner et pour pas qu'il reste des heures aussi assis sur la lunette des toilettes. Et aujourd'hui, ça devient des produits phares puisqu'on a énormément de demandes par rapport à ça. Et donc voilà, c'est marrant comme aussi on a appris dans cette entreprise, on a évolué en fait, on est maintenant sur de nouvelles compétences grâce à cette écoute aussi qu'on a eue sur le terrain. Donc voilà, il y a quelques clients ce qu'ils disent, le fait que du coup, à la fois les familles sont rassurées que l'installation est simplifiée, qu'ils ont un retour très positif. Et donc, voilà, c'est pas non plus faire l'éloge, mais donc, voilà, un peu pour, j'étais un peu long peut-être, pour vous parler un peu de qui on est, ce qu'on fait à notre petite échelle. Mais voilà, l'idée c'est que avec toute l'équipe, on essaye. Tant de faire ce que peut ou améliorer ce quotidien des personnes dépendantes. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup. Juste signaler qu'au CNAM, j'ai rencontré un inventeur, un professeur au CNAM d'ailleurs, qui a inventé avec d'autres un fauteuil roulant innovant, mais vraiment innovant. Au moins 3 ou 4 innovations majeures avec dépôt de brevets, etc. Donc vous ne fabriquez pas évidemment de fauteuils roulants, mais vous êtes en liaison, parce qu'il paraît que le marché du fauteuil roulant, par exemple, est pris par les Américains. Il n'y a plus de constructeurs français, etc. Vous confirmez cette information ?
Ah oui, alors c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur ce terrain-là. Après, je ne suis pas expert dans le fauteuil roulant, donc je ne pourrais pas vous dire quels sont les leaders sur le marché.
D'accord.
Jackie. Il peut y avoir des questions, mais je voudrais élargir même le propos, puisqu'on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Ce n'est pas toujours évident, puisque Jean-Marc parlait de temps long. C'est vrai que le temps court de l'entreprise et le temps long que nous pouvons avoir parfois, nous, dans nos institutions, il y a des rencontres qui ne sont pas toujours faciles. Or là, on a la chance cet après-midi d'avoir cette occasion-là. Moi, j'aimerais creuser pour les journées l'an prochain, donc les sixièmes, comment élargir cet après-midi pour aller plus loin. On l'a déjà un peu fait avec Jean-Marc. On avait fait une rencontre sur les réseaux d'entrepreneurs. Je pense qu'on a tenté aussi d'aller voir la CGPME. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé, mais on ne désespère pas. Mais je pense que là, il y a vraiment une opportunité à se poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des questions précises sur les 3 interventions, mais comment fait-on pour améliorer ce dialogue entre les entrepreneurs, au sens large, et le reste de la société ? Voilà, c'est ça la question aussi, et à travers la culture, précisément.
En tout cas, je connais quelqu'un qui, au niveau Île-de-France, est le responsable de la CGPME Territoire, qui est une nouvelle, un nouveau département de la CGPME Île-de-France. Donc, comme c'est un très bon ami à moi, je peux lui parler de la demande de Jackie.
Oui, excusez-moi de commencer par une impression personnelle. Je trouve que l'entreprise que vous dirigez jette vraiment un espoir pour tous ceux qui approchent de l'âge de la retraite, comme je le suis. En revanche, en tant que professeur de lettres, je suis un petit peu déçue que certaines de vos diapositives nous parlent en anglais. Voilà, ça c'est une petite remarque personnelle. Je voulais revenir sur ce que vous dites à propos de l'écoute dans votre entreprise, parce que vous avez présenté l'interaction de la vie privée et de la vie professionnelle, en fait, je l'ai entendu comme un facteur de progrès. Je pense effectivement que toutes les nouvelles technologies nous permettent de recevoir des messages de nos supérieurs hiérarchiques le samedi et le dimanche. Mais en revanche, c'est une vraie question sans provocation. Comment est-ce que vous envisagez de gérer les interférences de la vie privée dans le temps professionnel ? En particulier, je suppose que vous avez des femmes dans vos équipes et que certaines sont plus assez jeunes pour avoir encore des enfants qui dépendent d'elles. Est-ce que, je suppose que vous êtes amené à gérer des absences. Comment est-ce que vous concevez la gestion de l'intervention du temps privé sur le temps professionnel?
Merci pour cette très bonne question. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas aller que dans un sens. C'est-à-dire que c'est sûr que le fait que ce monde soit de plus en plus connecté, que du coup... Après, c'est à la volonté de chacun de s'il a envie de regarder ou pas ses emails. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Mais je prends l'exemple là de la semaine dernière, un des collaborateurs où l'école l'appelle à je sais plus, vers 14h quelque chose, en disant bah, voilà, votre enfant a une gastro, est-ce que vous pouvez venir le récupérer? Il est venu me voir, il me dit Arnaud, Quentin est malade, faut que j'aille le récupérer. Il dit bah, écoute, vas-y, il n'y a pas de problème, aucun souci quoi. Après, je veux dire, chacun est autonome, il est responsable, il s'organise et puis voilà. S'ils doivent partir pour aller chez le médecin, etc. Moi, ça m'est égal, quoi. Je regarde pas, j'ai pas à compter. Voilà. Pour moi, on est tous des adultes, on est tous grands, on est tous responsables. Alors après, du moment que le travail est fait. S'il doit partir plus tôt à 15h ou 16h pour aller chercher ses gamins à l'école, bah, il y va et ils le font. Mais à d'autres moments, bah, là, je prends l'exemple. Ben justement, cette personne qui est partie à 14h ou 14h30 pour aller à l'école pour récupérer son fils, s'occuper de son fils, et ben mardi soir, il a fallu donner un coup de bourre parce que le lendemain, il y avait un shooting photo avec une maquette, etc. Il est resté, mais je ne lui ai pas demandé de rester, il l'a fait de lui-même. Et voilà, c'est juste une question de confiance, de cohérence, d'équité, de justice. Voilà.
D'autres questions, d'autres remarques ou d'autres suggestions pour l'an prochain? Il y en a une pour demain, en tous les cas, c'est que on fait une visite chez toi à 15h.
Oui, pour ceux qui veulent venir à Châtellerault pour découvrir le métier de transformation des matières plastiques. Pour répondre, je peux rebondir sur ce que disait Arnaud. Les notions de temps, hein, ça revient à ces notions de temps long et temps court, hein, de ça. Nous, on a eu pas un audit de l'ARACT, mais on travaille avec l'ARACT. Vous connaissez l'ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui mérite d'être connue. Hein. Et le bilan, c'est que les gens, ils se sentent mieux à l'entreprise que chez eux. Voilà. Et du coup, ce que vous dites, voilà. D'ailleurs, vous avez utilisé les femmes, mais les hommes peuvent. Hein, vous voyez, hein, comment on est.
Donc,
c'est ça, mais voilà, on est tous dans le bon schéma, quoi. Mais je crois que, en fait, il faut beaucoup de confiance et il faut être vigilant. Je pense qu'il y a aussi des moments où on est dans le train, enfin, on est dans le train. Travail, etc. Et on n'est pas vigilant. Il faut aussi se donner. Alors, je parlais de temps long, mais des temps de repos. Alors là, ce serait plutôt sportif. Des temps forts de production et des temps de récupération. Voilà. Il faut avoir cette articulation. C'est une espèce de respiration, hein, l'entreprise. Et des temps sur l'extérieur et des temps internes. Voilà. Mais tout ça, j'ai l'impression qu'en France, tout ça, c'est bloqué, en fait. Ces passages de. On est chômeur, soit on est employé, soit on est chef d'entreprise, mais on n'appartient pas à la même catégorie. Une anecdote personnelle, il m'est arrivé un petit accident dans l'entreprise, et quand l'accident arrive, vous avez les pompiers qui arrivent et les forces de l'ordre. Voilà, c'est automatique. Ah oui, vous savez. Donc ça en dit long sur plein de choses. Et du coup, comme c'est moi qui me suis fait mal, je suis le dirigeant de l'entreprise, ils ont dit bah, est-ce que c'est un accident du travail? Non, c'est le patron qui s'est fait mal. Ah, bah, c'est pas un accident du travail. Donc. Ouais. Vous voyez, on est quand même dans des représentations des temps et des récupérations, même pour le chef d'entreprise, qui doivent être faites pour tout le monde, en fait. Enfin, c'est ça qu'il faut.
Oui, alors moi, je trouve l'initiative de Jackie excellente de vraiment réunir les réseaux d'entrepreneurs. Moi, j'avais eu la chance, il y a 20 ans, Jacques Giroir m'avait demandé de créer les clubs APM en Suisse, mais j'avais refusé parce que je les trouvais trop dans la représentation. Mais il y a plein de, à l'image du CJD, mais plein d'autres, etc., le groupe Germe, au Québec, en Belgique, en Suisse, il y en a plein. D'avoir une réunion de tous ces réseaux. Et je pense aussi que la France a beaucoup à apprendre de la périphérie, hein, c'est-à-dire francophone. Donc je pense que c'est assez intéressant parce que on a beaucoup à apprendre les uns les autres. Et puis je suis frappée par le fait qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des jeunes XY, des jeunes des tiers-lieux, des jeunes des réseaux d'entrepreneurs, il y a une espèce de fièvre comme ça. Et j'ai l'impression que c'est au niveau de ces marges que ça progresse énormément et que l'impact social est énorme. Donc si effectivement on pouvait mettre en réseau les réseaux d'entrepreneurs, même les réseaux de tiers-lieux, etc., ça serait très, très intéressant. Et je pense que là, il y a un levier dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc tu peux compter sur moi.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres...
Bravo pour votre démarche. Juste, moi j'ai vécu dans une... J'étais un ancien d'agence pour la création d'entreprise. On a eu une confiance comme ça, un fonctionnement de confiance qui nous a permis d'être très créatifs naturellement et aussi d'avoir une grande confiance. Et est-ce que vous avez, dans cette démarche que vous avez entre les collègues de travail, est-ce que ça vous permet, est-ce que vous pouvez mesurer la vitesse de la capacité de réactivité, sinon de créativité sur les produits nouveaux, parce que vous êtes amené toujours à réaliser des produits nouveaux, donc à vous adapter pour réaliser ces produits. Donc est-ce que cette confiance ou cette, quiétude, enfin, ou confiance entre vous, a permis effectivement d'augmenter votre capacité de réactivité ou de créativité collective?
Alors, je n'ai pas, clairement pas de données chiffrées à dire, bah, tiens, oui, on est X% plus efficace. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne retournerai pas en arrière. Ça, c'est évident, c'est-à-dire que j'ai démarré, en fait, moi, j'ai été formé... plutôt dans l'automobile où tout est très carré, dicté, tu fais ci, tu fais ça, etc. Jusqu'à mesurer les centièmes de seconde au poste de travail pour gagner en productivité. Donc j'ai été baigné là-dedans. Après, je suis arrivé en la direction d'une entreprise, d'une petite entreprise où il y avait 5 personnes au départ. Et où c'était aussi très pyramidal, entre guillemets, même si c'est un Tech 5. Mais je veux dire, à côté, il y a une grosse entreprise qui on va dire, coagissait là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai évolué, j'ai changé. Et je me rends compte que le management par la confiance est clairement plus efficace, est clairement plus créatif et apporte beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'épanouissement que management directif et pyramidal. Donc j'en suis plus que convaincu. Mais dire de combien de pourcents, etc., mais c'est clair. C'est... Et puis on le voit même dans les collaborateurs. Ils disent, mais moi, ils me disent, moi, je suis content quand j'arrive le lundi matin au boulot, quoi. Et j'apprends plein de trucs, on fait plein de choses, c'est super. Ils sont... Donc rien que ça, moi, ça me ravit, quoi, en tant que chef d'entreprise.
Sur le combien, on peut se référer en fait aux travaux de l'ISEOR, qui a mis en place le management socio-économique, je crois que c'est à Lyon 3, c'est Henri Saval. Et eux, ils ont, sur 40 ans, ils ont à peu près 1500 cas d'entreprises répertoriées, où ils ont répertorié en fait les 2543 possibles dysfonctionnements d'une entreprise. Ils les ont monitorés et puis ils ont mis en place du management fluide, agile, etc. pour pallier à ces dysfonctionnements. Et en fait, ces dysfonctionnements génèrent des coûts cachés. Et ils arrivent au chiffre suivant, c'est-à-dire que c'est 25 à 50%, mais c'est chaque année, hein. Et moi, pour avoir mis en place ces systèmes combinés aussi avec un peu de l'holacratie et tout, on arrive tous au... Après, on fait chacun... Il n'y a pas un seul système. Après, on arrive chacun à ce qui nous convient. Eh bien, on arrive... Moi, j'ai 3 ans de suite, je suis arrivé à 50% de coûts cachés économisés. Donc, on est assis sur un tas d'or. Et ça a été... Et c'est les seuls... C'est en France où les seuls, d'ailleurs, ils viennent d'être classés dans les 2 personnalités de l'entreprise les plus influentes sur le plan mondial. Ce Henri Saval, parce qu'effectivement, il a réussi à monitorer ça. En plus, C'est vraiment intéressant.
Effectivement, Jordi Saval, non, c'est pas Jordi Saval. Les travaux d'Iséor ont débuté dans l'indifférence générale. Je m'en souviens au tout début, il prêchait dans le désert parce qu'on disait mais comment peut-on calculer le coût réel d'un licenciement, par exemple. C'est impossible. Voilà. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui le fait. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions directes, je propose 5 à 10 minutes maximum de break. 5, dit Jackie. Ébrouez-vous, il y a des petits coins à côté, il y a un petit peu de boisson qui reste, et puis nous allons redémarrer après par la poésie.